Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ah non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Anatomy of a Triumph, Palme d'Or, César and Oscar for Best Original Screenplay. Congratulations to Justin Triet and his team, Iconic. French. Outre le fait que les communicants de l'Elysée sont cher payés pour pas être foutus d'accorder le pronom possessif, his team c'est masculin, Justin Triet c'est une femme, bref, la faute peut-être au manque de professeurs d'anglais dans l'éducation nationale, qui sait, bref. C'est surtout Anatomy of a foutage de gueule, si vous me permettez. Que l'Elysée et le président, dont on connaît le désir d'être partout, tout le temps, fassent en sorte que le film ne soit pas choisi pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger après sa Palme d'Or et le discours politique de Justine Triet flirtait déjà autant avec le scandaleux qu'avec le ridicule, que le président, ou disons ses communicants, finissent au terme d'un parcours exemplaire par se fendre d'un malheureux tweet de félicitations, là où d'autres sportifs ou artistes moins abrasifs auraient vu les portes de l'Elysée s'ouvrir devant eux avec tapis rouge pour une réception dans le faste des ors de la République, l'est doublement. Que dire à part que toute cette séquence est navrante, iconic, French, et réalisée sans trucage.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Salut les amis.
Hello.
Ben quoi, Anatomy of a bonjour.
Anatomy of a bonjour.
Oui, j'irais bien nager dans la Seine pour fêter ça.
Qu'est-ce que vous pensez de cette petite séquence?
Incroyable, mais ceci dit, c'est une première dans l'histoire, je pense, des Césars et des Oscars. C'est la première fois qu'on avait une cérémonie des Césars moins chiante que celle des Oscars. En vrai, j'ai pas regardé, c'est ce que les gens m'ont dit.
C'est comme les livres que t'as pas lus d'ailleurs.
Bref. Les quoi ?
On fera un petit point sur la cérémonie. Bah, d'ailleurs, on va peut-être qu'avant de faire un petit point sur la cérémonie, on peut faire un petit point sur nos pronostics.
Oui,
absolument. Puisque nous avions fait des petits pronostics, voyons donc qui a gagné et de combien Simon a perdu.
Alors, excusez-moi, mais il y a une récompense au moins qui a dû vous piquer un peu.
Alors, on va commencer par meilleur film international.
Mmh. On avait tous juste, non?
Oui. Eh bien, tout le monde avait voté pour The Zone of Interest, sauf moi qui avais voté pour Le Cercle des Neiges.
Ah ouais, d'accord.
Ah, oui, c'est
oui, j'avais tenté, j'avais cru, donc c'est un échec.
Ouais, t'inquiète, il faut croire en ses rêves. Hein.
Mais oui, mais puis moi, je continue Believe à défendre ce film qui est formidable, mais même si j'aime beaucoup La Zone d'intérêt par ailleurs. Le meilleur scénario original.
Tout le monde avait mis,
donc ça, on est très bien. L'Oscar pour le meilleur rôle féminin, pardon, leading role actress pour la meilleure comédienne, comment on dit en fait ?
Meilleure interprétation féminine.
Meilleure interprétation féminine, voilà. Eh bien, qui avait vu juste ?
Qui avait dit Emma Stone ?
Qui avait dit Emma Stone ?
Pas moi en tout cas.
Personne.
Non mais si, mais je rappelle, je vous avais dit vous m'agacez, donc je vais faire comme vous, Lily Gladstone, mais je pense que ce sera Emma Stone et vous m'avez regardé genre elle a eu deux fois, elle a déjà eu une fois.
Tout le monde a dit Lily Gladstone.
C'était la grande surprise en vrai.
Le meilleur acteur masculin. Kylian Murphy, tout le monde a bon sauf Simon, qui a voté pour Paul Giamatti.
Voilà, donc tu te la ramènes sur Emma Stone, mais
à zéro la balle au centre.
Et Alexis qui avait voté pour Bradley Cooper.
Ah, c'est vrai. Bon, donc au final, nous trois, ça va. Ouais.
On est pas mal. Meilleure réalisation, tout le monde avait dit Christopher Nolan pour Oppenheimer. Ouais. Et meilleur film.
Et là, j'ai eu trop d'espérance.
Trop d'espérance pour Sophie qui avait voté pour Anatomie d'une chute.
Ah, oui, d'accord.
Mais pour la beauté du geste.
Moi, j'avais tenté un Barbie.
Ouais.
Et je me suis planté aussi. Et donc, victoire pour Simon, Alexis et Arthur. Ce qui nous donne au final les scores pour Alexis, qui n'est pas là et qu'on salue d'ailleurs.
On l'embrasse.
Chapeau l'artiste.
10 ans déjà.
Alexis, 4 points. Sophie, 4 points. Simon, 4 points.
Mais non.
Si. Arthur, 5 points.
Let's go.
Nicolas, 3 points. Et voilà, comme quoi, à force de médire, Anatomy of Karma. Hein, voilà. C'est ça. N'oubliez évidemment pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, évidemment, également si vous le souhaitez, et pour avoir accès à du contenu exclusif à notre abonnement Josiane 45 ans sur Acast+. Et comme toutes les semaines, il y a un contenu et une émission en plus, et cette semaine, c'est toi Sophie.
Et oui, cette semaine, enfin la semaine dernière, vous aviez pu découvrir notre épisode sur Desperate Housewives avec Anna Godefroy et Alexis, et on avait donc parlé plutôt de la genèse de la série. Là, cette fois-ci, on spoil la balle. Hein. Et vraiment, dans Desperate Housewives, il y a des retournements de situation toutes les 5 minutes. On va parler des scènes qui font pleurer, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. On va parler des séparations, des couples. Enfin, vraiment, c'est un soap à lui tout seul, cet épisode, et on en est assez, assez fiers.
Et tes invités, rappelle-nous.
Bah, c'est encore Anna Godefroy et Alexis que pareil, on embrasse.
Voilà, tous ces bonus et tous ces contenus exclusifs que vous pouvez avoir pour une modique somme, pour la modique somme de 6 euros et des poussières et des brouettes.
Oh, des poussières quantiques.
Des poussières quantiques, exactement. Comme ta délicieuse crème de jour qui te fait un teint de pêche. Je sais pas ce qui se passe.
On m'appelle la petite pêche du 18e.
Non, ça c'est ce que tu viens de lâcher. Pardon.
Oh non!
Elle sent mauvais comme ma blague. Ouais. Sur ce, Anatomy of a Programme. Anatomy of a Programme. Anatomy of a Bizarre Couple. Anatomy of Menstruation dans la jungle. Anatomy of Femme battue. Mais on commence par Anatomy of Victoire au loto. Que se passerait-il si, comme ça, là, paf, du jour au lendemain, vous encaissiez 10 millions de brousoufs? Tout
de
dépend.
Quoi de brousouf. Les brousoufs?
Vous connaissez pas? Ah putain, la ref, non?
Bah, les si, brousouf. Des brousoufs.
Les brousoufs, c'est objectif nul, c'est très vieux. Hein.
Ah ok, putain, pourtant les nuls, c'est moi, mais j'avoue.
Les brousoufs, c'était il y a très longtemps, c'était ouais, Bruno okay. Carrette.
On embrasse.
On l'embrasse. Donc j'allais dire, que se passerait-il si vous encaissiez comme ça 10 millions de brousoufs au loto? Eh bien tout dépend, vous allez me dire, si vous êtes un père de famille un peu pleutre, si vous êtes une jeune femme célibataire éternelle, si vous êtes un jeune terroriste musulman ou une infirmière pleine de principes.
Oh putain!
Quoi? C'est combien?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
5 millions!
5 millions!
On va avoir la vie qu'on mérite avec 5 millions!
Bienvenue au tirage Top Million de ce jeudi. Allez, c'est parti pour le tirage de ce soir.
Oh, moi, riche que je me casse de ce moroi.
Avons-nous ce soir un heureux gagnant?
Le 13!
Le 13!
J'arrive pas à réaliser, j'ai pas dormi de la nuit.
Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir.
On a gagné 60 millions.
Heureux gagnant de Maxime Govard et Romain Chauet avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Anouk Grimbert, Pauline Clément et Samy Outalbali. C'est donc la grosse sortie française de la semaine. Simon, c'est un film à sketch. Un film à sketch, c'est pas tout à fait classique dans la comédie française.
Le film à sketch, c'est quelque chose qu'on retrouve plus trop. Un des derniers films à sketch, on va dire, qui a marqué durablement beaucoup de spectateurs et beaucoup de cinéphiles, c'est sans doute Les Nouveaux Sauvages de Safran Sifron. Ouais.
De Damien Sifron.
De Damien Sifron, voilà, j'avais un doute sur
quelques années après Les Infidèles.
Oui, tout à fait. Mais Les Infidèles avaient pas très très bien marché. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est une forme qui est assez rare, et c'est rare qu'elle, dans notre monde contemporain, qu'elle déclenche beaucoup d'adhésion. Or, pour le coup, et je crois que je suis pas tout seul autour de cette table, là, on a un vrai film méchant, moi, qui m'évoque, bah, justement, Affreux, ça, les méchants, hein, de la comédie italienne, qui a énormément d'acidité. Et en même temps énormément d'humanité, qui est pas très loin, je trouve. Alors pas en termes d'humour à proprement parler, parce que le style a évolué, mais en termes de philosophie du rire et de regard sur les personnages, je trouve qu'on est pas très loin du Splendide. C'est même ce qui a été fait de plus proche du Splendide depuis très longtemps.
Je suis assez d'accord.
Et ce que j'appellerais, et je
Sophie est navrée. Sophie est navrée de la
ah, complètement, mais bon.
On en reparlera. Tu me diras pourquoi.
Et ce que j'appellerais vraiment, alors sans que ce soit du tout négatif, parce que c'est un peu factuel, je dirais un humour un peu misanthrope de droite, assez rigolo, parce que profond. Bah, parce que ce que je veux dire, c'est que profond.
C'est sur de droite que j'ai fait la moue, mais vas-y.
Non, mais c'est pour ça que je dis un peu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film qui se veut très aimant, très humaniste. C'est un film qui ricane et qui ricane avec nous et de nous et qui a un regard, oui, qui n'est pas profondément humaniste sur ces personnages. C'est pour ça que je m'amuse à dire que c'est un petit peu de l'absurde de droite, mais. Peu importe, c'est pas un jugement de valeur du tout. On est vraiment dans une comédie extrêmement mordante, extrêmement méchante. Puis, bah, il suffit de revenir à l'énoncé, je trouve, qui mettait en lumière toutes les lignes de force du film. Imaginez un djihadiste qui gagne à l'Euromillion, je trouve ça génial. Enfin, c'est génial comme point de départ. C'est absolument merveilleux.
Moi, je trouve ça. Moi, je trouve que c'est un terrain hyper glissant, hyper casse-gueule. Quand le film s'engage là-dessus, je me dis oulalalala, où ça va. Ça hyper bien tenu. Mais Sophie, non, alors Sophie, t'es moins convaincue.
Bah alors moi, concernant les films à sketch, ça passe ou ça casse. Je trouve ça toujours un petit peu dangereux d'entamer des grosses histoires, des histoires un peu longues dans des formats un peu courts. Donc pour moi, si ça marche, c'est soit par exemple qu'un truc comme New York Stories où t'as que trois segments, ou le The French Dispatch, en tout cas en termes de format, en mode trois gros moyens métrages qui donnent un peu d'ampleur, soit du ABC of Death, à savoir plein de courts métrages de 2-3 minutes, et du coup on a quelque chose un peu galvanisant, comme quand on rentre dans un festival de courts métrages et qu'on en voit plein d'affilée.
Oui, mais si je puis me permettre, Sophie, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là on parle de comédie. Donc vraiment, on est dans l'essence du sketch, et c'est-à-dire vraiment sur la petite forme courte. Qu'est-ce que t'en... Non, vas-y, hein, je te laisse.
Alors,
poursuivre.
Au final, peu importe le genre du film, l'important pour moi, ça va être la caractérisation des personnages et l'intérêt qu'on va porter à l'histoire. Pour moi, une comédie ou non, il faut avoir de l'impact. Mais par exemple, si on prend le côté sketch, moi je trouve que... comment ça s'appelle déjà, Movie 33, le truc des Farid.
Movie 33.
C'était absolument indigent, et peu importe la quantité de sketch ou quoi que ce soit, je trouve que c'est... Enfin bon, bref, je suis pas fan de ce format-là de base, mais moi je trouve surtout que c'est pas très drôle. Si je dois être complètement honnête, je trouve qu'il y a une grande force dans le film, c'est le montage. Je trouve qu'il y a une vraie finesse dans la coupe et dans le hors-champ. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est un des sketchs qui plaît le moins, c'est celui avec Anouk Grimbert. Moi, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise du hors-champ et ouais, de comment on va ellipser des éléments pour rendre le truc très sec, très cut. Le reste, je trouve que c'est à peine plus que ça aurait été parfait sur Golden Moustache, par exemple. Notamment...
Ouais, t'es dur.
Bah non, j'aurais préféré le voir sur Internet. Là, je trouve qu'il y a très peu d'intérêt. En gros, bah, comme d'habitude, il y a des sketchs qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. J'aime beaucoup le premier, mais j'aurais pas voulu le voir bouclé. Le deuxième, j'aurais voulu le voir sur Internet. Les deux autres, soit il y a un terrain qui est trop glissant avec bah, celui qui se passe dans le métro.
Sur les terroristes musulmans.
Le terrorisme, moi, mini parenthèse avant de donner la parole à Arthur notamment. Pour ceux qui vivent à Paris, vous avez très vite remarqué que ça n'a pas été tourné du tout dans le métro parisien, ça a été tourné dans le métro bruxellois qui a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une attaque il y a 5 ans. Et je sais pas, ça m'a mis hyper mal à l'aise de voir cette image en comédie, mais ça, c'est vraiment de la... C'est personnel.
Ouais,
voilà, puis ils font croire que c'est la bonne nouvelle alors que pas du tout. Mais ça, c'est encore
oui,
autre
surtout
chose.
Surtout que c'est même pas le panneau de la station de métro. C'est rigolo parce que je pense que je peux dire exactement l'opposé de toi sur ce film-là. Parce que moi, je trouve que le premier sketch est assez quelconque. Et je me dis, bon, oui, ok, je trouve pas ça super bien écrit, je trouve ça un peu épais. Et moi, c'est à partir du deuxième que je commence à rentrer dedans.
Ah ouais,
Et surtout, le troisième, je trouve que les terroristes, ça me fait... Le deuxième, je le trouve pas dingue, fou, drôle, mais les terroristes, ça me fait mourir de rire. Anouk Grimbert, déjà, ça fait plaisir de la revoir au cinéma.
Ah, ça, je suis ravie.
Elle est géniale dans ce rôle de comédie. Mmh. Et là, on est sur une espèce de slapstick grotesque avec l'histoire du cadavre, etc. Enfin, je trouve ça...
Ah, mais là, on est d'accord. Vraiment, moi, c'est mon préféré, en tout cas. Hein.
Mais moi, les terroristes, je me dis, c'est hyper risqué. Et je trouve que, là, pour le coup, l'écriture comique, et Dieu sait que je suis quand même vraiment la personne la moins cliente pour de la comédie française un peu potache, un peu je te pousse du coude, pouette pouette. Là, j'adore le nihilisme misanthrope, la méchanceté intrinsèque de toutes ces histoires dont on peut dire, et vous allez le comprendre, et c'est vraiment pas de le spoiler, qu'elles se terminent toutes mal et qu'on vous dit globalement gagner du pognon, c'est la porte ouverte à l'enfer, et ça va très mal se terminer. Et je trouve vraiment la chute du sketch sur les terroristes est incroyable. Moi, vraiment, ça
m'a
fait...
Mais pour moi, on n'est pas très loin en termes de niveau de Four Lions, qui était un film qui a une quinzaine d'années maintenant, qui était en fait une espèce de relecture Monty Python des attaques terroristes britanniques.
Ouais. Et
qui était absolument incroyable. Alors, qui était plus fin que le segment.
C'est le problème.
Mais non, c'est pas le problème. C'est très compliqué de faire de l'humour de bourrin.
Ah ben, je suis d'accord.
Et puis faut y aller pour te dire à un moment donné, on va faire un gag sur des terroristes musulmans qui gagnent l'auto, et surtout de les présenter comme des bracasses complets. La réplique, ouais, attends, toi tu te calmes, tu t'appelles Erwan, t'es fils unique, t'es né en Bretagne. Moi je me pisse de rire dessus.
Mais je suis d'accord que cette réplique là est incroyable.
Elle est hyper forte.
Mais c'est toujours pareil. Dans chaque sketch, il y a toujours une fulgurance et le reste qui tombe à plat. Pour moi, il y a un manque de rythme, de tempo comique qui me gêne.
Ouais, je vous trouve un peu dur. Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je suis un peu entre les deux clans. Je trouve que le film est déséquilibré, mais hyper intéressant. De manière générale, moi, les films à sketch, je trouve que c'est un peu ce que disait Simon en intro. C'est tellement rare que c'est un objet que j'ai envie un peu de soutenir, parce que c'est pas juste rare parce que c'est difficile à produire, c'est aussi difficile à écrire. Effectivement, comment on fait pour que ce soit pas juste 5 courts-métrages qui s'enchaînent, comment on crée du lien, comment on réussit à créer un univers de comédie qui est similaire. Et puis c'est ce qu'on disait à l'instant, moi je suis autant sur le bourrin que sur le fin, moi je pense que la comédie c'est le genre le plus casse-gueule.
Bien sûr.
C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire peur ou de rendre triste, en vrai.
C'est la même avec chose. Le snuff movie.
Je suis avec une seconde de retard, pardon.
Ah là là.
Donc voilà, donc moi par principe, j'ai toujours du mal à défoncer des comédies quand il y a des vraies propositions. Cela étant dit, le premier sketch avec Audrey Lamy et Fabrice Eboué, je le trouve pas mal, mais je le trouve pas non plus transcendant. Moi le deuxième, j'ai pas du tout accroché, mais en fait c'est pour un truc qui est très bête, mais j'ai la même chose sur le quatrième, malheureusement même sur le premier. En fait, j'ai deviné très vite tout de suite.
Bien sûr, mais c'est pas l'enjeu, en fait, c'est si. Pas l'enjeu.
En fait si, parce qu'à partir du moment où tu devines tout, bah tu devines une grande partie des gags qui peuvent arriver. Et j'en ai anticipé pas mal, et en fait vraiment j'en ai anticipé même beaucoup.
Ah bah sur le 2
mais même sur celui avec les terroristes par exemple, j'ai très vite anticipé ce qui allait se passer, et ça n'enlève rien à l'audace de l'écriture. Au propos, mais je trouve que du coup, moi, il y a des endroits de rire qui fonctionnent moins qu'à d'autres. Celui sur la terroriste, moi, j'étais vraiment dans un truc, dans un espace de. Est-ce que c'est trop tôt ?
Oui, mais moi,
est-ce
mais
que c'est
même,
brillant ?
Mais le bon moment, c'est quand
ça.
C'est trop tôt.
C'est exactement
et c'est
ça.
Pour ça
c'est pour ça que c'est génial.
C'est pour ça que ça fonctionne. Celui avec Anne Grimbert, pour autant, je le trouve pas spécialement grinçant, tu vois. Quand j'entends Simon parler de comédie grinçante, j'ai en tête un film qu'il adore et que je déteste, qui est Les Oranges Sanguines.
Oranges Sanguines, ouais. J'en étais
où là, pour le coup, c'est de l'humour vraiment méchant.
Mais moi, je mets Oranges Sanguines au-dessus, mais Oranges Sanguines, pour moi, c'est quasiment maltraiter le spectateur et être dans l'expérimental.
C'est autre chose.
C'est pas la comédie grand public.
Moi, j'adore Les Chiens de Navarre et je trouve que Oranges Sanguines est partiellement raté. C'est pas du tout, on parle pas du tout de la même chose.
On parle pas de la même chose.
Là, on parle d'une comédie grand public qui est sur dans 300 salles.
On est d'accord.
Et où, par rapport au tout venant de la comédie française, que ce soit les films
piquants,
que ce soit les films de Christian Clavier.
Enfin, je veux dire, mais alors justement,
un cran au-dessus très nettement et c'est... en écriture et en réal.
Je suis d'accord qu'effectivement c'est mieux que la plupart des comédies que l'on a et que c'est un peu plus piquant. Mais moi, quand on me dit une comédie vraiment méchante qui fait mal et machin, je retrouve pas ça vraiment dans le film. Je suis d'accord que c'est les plus qu'à l'accoutumée, que c'est les plus qu'à la moyenne. Je le retrouve pas. J'aime bien, étrangement, la conclusion du premier sketch. Enfin, du coup, le cinquième sketch, parce qu'en fait, faut le dire, en gros,
la dernière partie
est en fait la suite du premier. Bref, c'est déséquilibré, mais c'est pas totalement intéressant. Voilà, il y a des trucs juste. Moi, le fait que j'ai pu autant anticiper le récit m'a fait anticiper des gags et qui fait qu'il y a certains rires qui ont pas autant fonctionné que ce que j'aurais aimé. Mais c'est pareil, c'est vraiment être tatillon.
Arthur a assez raison, Simon. On le définit comme un film méchant et misanthrope. Le curseur est pas poussé très très loin. Ça
bien sûr,
plus loin.
C'est pas révolutionnaire.
Dans la prison avec Fabrice Eboué, ça aurait pu aller beaucoup plus loin dans la méchanceté.
Tout à fait.
Je veux dire, ça reste quand même très sage. Calmons-nous.
Absolument. Non, tu as raison de le faire remarquer.
C'est le segment sur les terroristes, précisément parce que c'est celui qui gratte, c'est celui qui est inconfortable, et c'est celui où tu dis. Ah, ils ont osé quand même.
Oui, absolument. Et
la
puis
la séquence où ils sont dans le camion, dans le camion de fluc.
C'est incroyable. Mais moi, je voudrais attendre.
Ils tapent sur les épaules. Moi, je rigole. Mais vraiment, je me tords de rire, quoi.
Et puis moi, je voudrais revenir à quelque chose qui fait justement que, quand bien même le film ne va effectivement pas si loin que ça, à part ce segment spécifique. Et encore, ce segment spécifique, il va très loin dans son principe de départ, son principe de base. Mais après,
oui,
c'est l'humour, quoi.
Samy Oudalbali est génial.
Tout à fait.
Hyper bien. Vous l'avez vu dans Sex Education.
Mais ce que je trouve assez remarquable dans le film, en fait, c'est vraiment son positionnement. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre un truc que, je pense, à peu près tous les êtres humains se sont dit un jour, et si moi je gagnais au loto ?
Ouais,
tiens,
bien sûr.
Est-ce que les gens qui gagnent au loto, ils deviennent fous ? Enfin, tu vois, cette question que 10 milliards de personnes se sont posées en grattant un ticket ou en regardant un reportage super agaçant avec des gens floutés qui font
« Oh, vous savez, c'est pas facile d'avoir 50 millions d'euros.
» Et donc, cette espèce de questionnement très banal, il va le prendre, mais en même temps, il va pas forcément le traiter de la manière la plus attendue qui soit, parce que si on regarde quand même un peu la comédie française depuis 15-20 ans, s'il y a bien un truc qui n'est jamais interrogé dans la comédie française depuis 15 ou 20 ans, c'est le pognon. Que tu regardes Intouchable, je veux dire, on se demande jamais comment le personnage de Cluzet a eu son argent. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce que c'est pas? C'est juste donné. C'est pas bien ou mal. Ça nous est donné. Tu regardes des films récents comme Cocorico, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je veux dire, tu vois, tu as toujours ces personnages très riches, très bourgeois. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais si tu veux, ça n'est jamais une source de rire. On se pose quasiment pas, tu vois, on questionne très peu la question de cette question-là, de cette matérialité-là. Et je trouve que le film le fait d'une manière, enfin, déjà, il a le mérite de le faire.
Ouais. Problème, c'est Sophie après. Si. Ah, si j'étais riche. Ah si j'étais riche avec Daroussin, de Michel Mounz et Gérard Bitton. Oui, désolé Gérard. mais qui était une traite, qui était une jolie comédie aussi, sur un mec, Daroussin qui joue classique, son mec un peu
Nicolas,
posé, etc.
Alors dirais,
avec cette réplique géniale quand il arrive chez le banquier, qu'il a claqué plein de thunes, et son banquier lui dit « Ah mais il vous reste encore, vous avez plus d'argent qu'avant ». Et le regarde, il fait « Ah mais donc quand on est riche, ça s'arrête jamais ». Et le banquier lui répond « Oui, c'est comme quand on est pauvre ».
Voilà,
pas mal.
Et c'était sur la même thématique.
Mais regarde Nicolas, il faut que tu me cites un film qui doit avoir 10 ans alors qu'on fait 50-60 comédies par an.
Qui a 20 ans. Hein, 2002,
20 ans en plus,
2002,
tu vois.
2002,
bah voilà, non mais tu vois, c'est pour te dire que c'est rarement abordé par la comédie française et au moins là ils essayent et ça je leur en sais gré.
Il y a même Henri Guibet. Sophie.
Ah, moi je pense à un autre film sur la question de l'argent et je vais ouvrir sur un autre réalisateur de comédie qui me manque pour le coup. Non, moi il y avait Hors de prix que j'avais vu dans les années 2000 avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh que j'avais trouvé assez charmant à l'époque et je pense que ce qui me manque, c'est pas du tout le même genre de comédie, mais je trouvais qu'il y a eu une petite période dans les années 2000 où on a fait des comédies un peu douces et un peu piquantes sur la vanne et non pas sur le fond. Je crois que ce qui me manque, c'est les vraies bonnes vannes et ou les vrais comiques de situation. Et c'est pour ça que j'en parlais avec Alexis qui était venu voir le film avec moi. Il y a Pascal Chaumeil qui me manque beaucoup dans la comédie française parce que je trouvais que L'Arnaqueur, c'était vraiment un très très chouette film. Et il avait fait un film juste avant de décéder qui s'appelle Un petit boulot et qui traite pour le coup, lui, d'un village qui a perdu à cause de la fermeture d'une usine l'intégralité de sa richesse et comment les personnages vont petit à petit virer mal. Et c'est un film avec Romain Duris et qui a été coécrit par Michel Blanc et c'est un film que j'avais vu à Fantasia, donc Fantasia, festival de films de genre, alors que c'est une comédie très très noire, très thriller, très grinçante, humour un peu sadique et moi ça me manquait un petit peu d'avoir genre des vrais développements parce que le film à sketch, moi je trouve que c'est très limité comme possibilité de juste faire de la vanne sans fond. Et là je trouve que les vannes marchent pas toujours, donc moi le film il est trop bancal partout. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des petites des effusions de rire qui arrivent, notamment tu t'appelles Erwan, t'es né à Quimper, c'est brillant, mais qu'est-ce qu'il en reste? Moi j'ai déjà oublié le film, je l'ai vu ce matin.
On va pas refaire le débat, toute la partie. Moi je trouve que la partie théorique, il y a quand même plein de bonnes idées et dans les dialogues et dans les situations, ça rappelle les grandes heures. Comme tu parlais du Splendide d'ailleurs, on peut peut-être dire un mot là-dessus, parce que Sophie tu levais les sourcils en disant le Splendide, je sais pas si c'est la bonne référence. Néanmoins, l'un des films à sketch de l'époque post-Splendide, c'est Les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Vous avez vu ça, non?
Non.
Avec
non.
Thierry Lhermitte, qui joue une sorte de psychiatre qui s'est laissé pousser la barbe juste sous le menton.
Ah oui, le collier de sous le menton.
Sous le menton, il n'y a rien.
Ah là,
jetez un œil. Alors, je ne sais pas du tout comment ça a vieilli, parce que moi, je me souviens.
Comment ça s'écrit?
Apfelgluck s'écrit APFELGLUMLAUT-CK. Et donc, c'est un film à sketch et où il y a toute la clique. C'était une sorte de film un peu post-splendide, mais dans mes souvenirs, je crois qu'il y a aussi.
C'est un peu In Treatment, mais en avance.
Michel Serrault, bref. Bref.
Ah ouais. Oh, ouais. Wow.
Et dans mon souvenir là-dedans, il y avait un ou deux sketchs qui, je sais pas, j'ai le souvenir d'un sketch avec un œuf géant, mais il faudrait que je le revoie, c'était il y a très très longtemps. Et il y avait un autre truc qui avait aussi rappel de mon enfance. Désolé, je suis en train de... Oui, bonjour, monsieur Martin, vous voulez nous parler? Oui, oui, tout à fait. qui était une série qui passait le dimanche chez Jacques Martin qui s'appelait Loterie. Et où c'était tous les épisodes, quelqu'un qui gagnait l'auto et sa fille, enfin par la loterie, et en fait tu suivais le type, c'était Ben Murphy qui leur apportait le chèque et qui venait leur dire qu'il avait gagné l'auto, et ça créait toujours des drames et des situations absolument rocambolesques. Donc parfois c'est des drames, parfois c'est de la comédie, et je sais pas si cette série a duré très très longtemps, mais j'ai vraiment
moins que Columbo sans doute.
Oui, ça, c'est vraisemblablement. Peut-être un dernier mot, Arthur, sur le film. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'y aller? Est-ce qu'on va se détendre le dimanche en regardant Heureux Gagnant, ou est-ce qu'on passe son tour?
Moi, je pense que ça vaut le coup d'y aller et de se faire son avis. En fait, c'est ce qu'on disait, et je rajoute une pièce à la machine, mais vraiment, l'humour, c'est tellement compliqué, c'est tellement casse-gueule, on a tellement tous des goûts différents que, au moins, je me dis que le film à sketch a cette force d'essayer peut-être d'avoir des tons un peu différents par moment et du coup d'essayer des choses. Et moi, je sais que par exemple, le type de comédie qui me fait rire personnellement, c'est tout simplement Noir. Si je prends les comédies de ces dernières années, je sais que c'est typiquement ça, le un peu piquant et un peu cringe.
C'est pas très loin du film à sketch, hein, qui est vraiment ordonné
ça.
Les séquences sont très autonomes les unes des autres.
Tout à fait, tout à fait. Mais disons que sur le malaise, moi, c'est plus le malaise qui va m'attraper. Et c'est pour ça que le malaise du sketch à terroriste fonctionne peut-être plus que le deuxième sketch. Alors, j'aime vraiment beaucoup Pauline Clément par ailleurs, mais que je trouve prévisible à 1000%, et je vois tout dès le début et du coup ne m'amuse mais vraiment jamais. Mais c'est pour ça que je conseillerais les gens d'aller voir, c'est que franchement sur les 5 sketchs, il y en a au moins un qui risque de vous parler, quoi. C'est ce que je pense en tout cas.
Heureux gagnant donc de Maxime Govard et Romain Chouet, avec notamment Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Anouk Grimbert, Pauline Clément, Samy Outalbali. Et vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous êtes plutôt pour gagner 10 millions au loto ou pour assister à la défaite du capitalisme. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais bon, je pense que du coup, c'est bon. Vous savez qu'est-ce qu'il y a 49 boules et qui excite la vieille dame?
Oh là là, j'ai peur et j'en veux.
Elle est bien, non?
Oui, elle est mignonne.
On va passer aux actus de la semaine. On va se faire un petit débrief de cette soirée des Oscars que Simon a trouvé très ennuyeuse sans l'avoir vue.
Alors que moi, je me suis coltiné la nuit blanche pour la regarder en entier.
C'est pour ça que t'as les yeux tout rouges?
Oui, c'est pour ça. Okay. C'était il y a 5 jours, t'imagines la fatigue.
Mais tu as regardé les Oscars, mon fils? Non, j'ai de la conjonctivite.
Alors Arthur, c'était comment cette cérémonie?
Eh ben, c'était déjà, moi je n'ai pas trouvé ça plus chiant entre guillemets que les Césars. Je trouve que c'était une cérémonie qui s'est à peu près bien passée comme les Césars. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques trucs un petit peu gênants, pas beaucoup. Quelques discours politiques qui peuvent parfois être un peu clichés et en même temps pas énormément. Et ceux qu'il y a eu, bah, ils étaient extrêmement puissants. Ce soit celui de Glazer qui a vraiment été puissant. Et celui
qu'est-ce qu'il raconte pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie?
Pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie, Jonathan Glazer qui reçoit l'Oscar du meilleur film international pour The Zone of Interest, qui est donc, pour rappel, sur le monsieur qui tenait le camp d'Auschwitz, a profité de son discours et de sa plateforme pour rappeler que actuellement il y avait... En gros, il a fait un parallèle entre ce qu'ont vécu les Juifs à la Seconde Guerre mondiale et ce qui est en train de se passer actuellement dans la bande de Gaza. Autant vous dire que côté soutien, ça a été très compliqué, que dans la salle, ça n'a pas été très bien reçu, même s'il y avait beaucoup d'acteurs qui avaient des petits pins en mode « cessez le feu ».
C'était justement pour ne pas parler.
Swan Arlo qui avait un petit, alors, un
en
petit
fait,
pins
en fait, y a eu des,
du drapeau palestinien.
Il y avait des pins « cessez le feu » avec cette main rouge qu'on a vu sur Mark Ruffalo, qui pour le coup, lui, parle souvent de ça. Hein, mais il y en avait d'autres qui avaient plein qui avaient ce pins-là. Swan Arlo et Milo, l'acteur d'Anatomie d'une chute, ouais. Eux avaient effectivement le drapeau palestinien. Ouais. Donc bon, ce discours-là, très fort. Et puis il y a eu le discours aussi politique du meilleur documentaire qui est revenu à 20 Days in Mariupol, où le cinéaste a expliqué qu'il aurait aimé ne pas être sur scène et qu'il aurait aimé ne pas recevoir cet Oscar et que la Russie n'envahisse pas l'Ukraine. C'est un moment pas facile. J'ai trouvé que Kimmel était moins gênant que d'habitude, qu'il y avait moins de...
La vanne sur Snoop et Depardieu, moi je la trouve géniale.
Ah, elle est géniale.
Elle est vachement bien.
Si vous la connaissez pas, quelqu'un peut la refaire.
Que l'un des meilleurs acting français. Il dit Snoop, très impressionnant. On n'avait pas vu un acteur français manger son vomi aussi bien depuis Gérard Depardieu.
Bravo.
Est-ce qu'ils sont tous vrais en plus?
Elle est très bonne.
Et non, franchement, globalement, la cérémonie a commencé plus tôt, a terminé plus tôt, était moins longue que d'habitude. Il y a eu moins de moments difficiles. Après, je vous cache pas que j'ai regardé la version Canal+. Et donc Didier Alouche, French TV for French TV, je l'adore. Hein, mais bon, c'est toujours des petits moments pas simples à regarder. Mais voilà. Et en vrai, si je regarde le palmarès, moi, il y a pas grand-chose qui me gêne. J'avais mal jugé Gladstone et au final je suis quand même très content pour Emma Stone parce que je trouve que sa performance est quand même assez dingue.
Un peu compliqué. Ouais.
Non, la surprise est que je pense qu'aucun d'entre nous n'avait vu venir, c'était le scénario adapté pour American Fiction.
Oh, ça me surprend.
Qui bat Oppenheimer, c'était vraiment surprenant.
Ah, pour le coup, moi, c'est pas celui qui m'a surpris. À la limite, c'est plus film d'animation, tu vois, pour Miyazaki qui m'a un peu plus surpris.
Ah bon ?
Ouais, un peu plus.
Que tu pensais, tu t'attendais à quoi?
En fait, j'ai l'impression que de toute manière, tout le cinéma qui vient d'Asie a un peu plus boudé depuis quelques années. Mais je sais pas pourquoi, c'était juste un feeling. J'ai pas
Spider-Man.
Par exemple.
Les Américains ne réalisent, enfin, ils nomment des films de Miyazaki ou des films d'animation asiatique. Il les nomme, mais il les récompense jamais en général. C'est pour Pixar ou Disney.
Chihiro l'avait eu en 2003, si je me trompe pas.
Ouais, mais en 2003.
Ouais, bien sûr. J'ai 21 ans. Hein.
Mais en vrai, il y avait une publicité autour du Garçon et du Héron. Moi, dans mon pronostic perso, je l'avais mis. En tout cas,
Franchement, j'hésitais entre Élémentaire et Spider-Man Across the Spider-Verse, quoi. Genre, pour moi, c'était ça se jouait entre l'un ou l'autre.
Élémentaire, c'était quand même poussif. Hein.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé Élémentaire,
Mais Arthur, juste une question. Tout de même, cette espèce d'autoroute pour Oppenheimer. Bon, ben voilà, comme vous le disiez d'ailleurs la semaine dernière, il n'y a aucune surprise, aucun suspense, c'est le sacre annoncé, il emporte tout sur son passage.
Bah ouais, mais c'est comme ça tous les ans. Alors, c'est la saison des prix, c'est le principe, c'est qu'en fait on voit et on devine quels sont les films qui vont un peu tout roster. C'est rare les éditions où on a un film différent pour meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur, meilleure actrice. C'est souvent comme ça, un film qui truste un petit peu tout. Et encore, là, il a donc certes meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur second rôle. Il a pas de prix sur scénario. Il y a plein de prix. Ouais, bah, bon, on en pense ce qu'on veut. Le fait est qu'il aurait pu. Moi, je le voyais vraiment partir avec des prix sur, je sais pas. Là, cette année, c'est parce que, vraiment parce qu'il y a eu le Lanthimos. Mais sans le Lanthimos, il aurait pu partir avec les costumes, avec les décors. Je sais pas. Non, mais ce genre de film-là truste souvent beaucoup d'Oscars.
Alors,
il en a
pas
que
ce genre de film, c'est souvent un film. Mais là, pour le coup, c'est pas ce genre de film. Je le trouve assez sobre en termes de décors, de costumes. Même, oui. Même en termes de. C'est pas Titanic, tu vois.
Oui, mais alors, n'oublions pas qu'effectivement, 13 nominations, c'est très rare d'atteindre ce niveau-là. Et souvent, enfin, en tout cas, plusieurs fois dans l'histoire des Oscars, quand un film est arrivé avec ce type, si j'ose dire, de CV en matière de nomination, il a fait table rase, souvent. Parce que voilà, tout le monde a envie de participer du triomphe. Alors, moi, les raisons que tu viens de décrire, à savoir, oui, il y a la cérémonie des récompenses et on voit se deviner qui seront les mastodontes qui exécuteront sommairement les autres candidats. Moi, c'est ce qui fait aussi que je m'en cogne complètement et que j'ai l'impression de voir des gros studios cracher des millions pour essayer d'en gagner encore un peu plus. Donc vraiment, ça ne m'intéresse absolument pas. En revanche, ce qu'il faut peut-être aussi voir spécifiquement dans le cas d'Oppenheimer, c'est que je ne serais pas étonné que pour les Américains, ils ne le voient pas exactement comme nous. Parce que pour eux, de leur point de vue, en termes d'industrie, mais aussi de public, le succès tant économique, artistique, critique et public donc d'Oppenheimer, c'est une énorme surprise. Mm. Ils avaient tous prédit qu'Oppenheimer allait se planter. Et donc, du coup, le fait que le film ait plus ou moins fait un score de super-héros, c'est un miracle pour eux. Et du coup, je suis pas étonné que le film, en gros, reste le favori jusqu'au bout. Parce que ça participe d'une surprise. Et alors que nous, chez nous, que Christopher Nolan soit reconnu comme un auteur, que ses films aient du succès, c'est pas particulièrement révolutionnaire chez nous. Et ça pouvait sembler plus conventionnel de ce côté-ci de l'Atlantique. Quand j'ai l'impression que oui, à Hollywood, ça a été un petit peu plus un petit tremblement de terre.
En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que depuis quelques années, il se passe aux Oscars quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, parce que certes, il y a eu Marion Cotillard il y a maintenant 15-20 ans, on a eu The Artist il y a plus de 10 ans, mais depuis le succès de Parasite, voir des films étrangers repartir avec des prix comme le meilleur scénario original, voir ne pas avoir un blockbuster américain qui remporte les meilleurs effets spéciaux, voir qu'effectivement le film d'animation ne revient pas, Pixar, ça fait quelques temps qu'ils n'ont plus, mais effectivement Spider-Man était un des favoris, mais revient donc à Miyazaki, meilleur film étranger qui repart aussi avec l'Oscar du meilleur son. Il y a une valorisation d'un cinéma qui n'est pas que hollywoodien, qui est de plus en plus fréquent aux Oscars et qui reste une bonne nouvelle, je pense.
Et vous, que pensez-vous de cette cérémonie ? Est-ce que c'était... Sophie, tu voulais rajouter quelque chose ?
Je voulais juste dire que le discours de Justine Triet était trop cool cet Oscar m'aide à passer ma crise de la quarantaine, ce sera ma phrase de l'année.
Et puis alors, pour rebondir là-dessus, moi j'ai revu Anatomie d'une chute le week-end dernier, et effectivement, le scénario est vraiment, enfin, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui est remarquable dans ce film, c'est indiscutablement le scénario, l'écriture des personnages, l'interprétation qui emporte tout. Même si à la revoyeur, c'est rigolo, parce que j'aime beaucoup ce film, mais comme vous l'avez peut-être entendu, c'était pas dans mon top de l'année. Et effectivement, je l'ai revu avec mon compagnon et une amie, et en le revoyant, je crois que le truc qui me gêne, c'est qu'en fait, c'est malgré tout un film. Et je comprends que ce soit un parti pris sur lequel il n'y a jamais aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais aucune ambiguïté sur la culpabilité de...
Ah bon ?
Ah, je suis tellement pas d'accord.
Quand je le revois, il n'y a jamais... En fait, le film est pour moi vraiment... totalement plié. Ah bah je vous le dis, après l'avoir revu il y a 4 jours.
Mais moi j'étais persuadée de quelque chose en le voyant la première fois, et la deuxième fois je me suis dit mais en fait elle donne jamais les clés. Et même elle dit ce qui a été intéressant, et je peux finir là-dessus, mais elle a dit moi je vous dirai si elle est coupable ou non, et Arthur Harry l'a regardé et il dit mais même moi elle veut pas me le dire en fait.
Oui, mais enfin je veux dire, quelle est sa conviction, c'est une chose d'autrice, c'est si à un moment donné c'est absolument inaccessible. Bon bref, c'est un débat qu'on va pas faire ici, mais qu'on pourra faire à un autre moment. Et puisque je vous parlais tout à l'heure de vieilles séries avec la série Loterie, le prochain projet de Christopher Nolan, puisqu'on parle de lui encore, est un remake d'une autre vieillerie, Le Prisonnier, la série culte avec Patrick McGoohan, une série remarquable à plein d'égards. Simon, toi qui es un gros Nolan Zouz comme chacun le sait, tu attends ça avec beaucoup d'impas, mais surtout beaucoup de science.
Et oui, et de curiosité. Tout simplement parce que ce sera, je vous l'annonce, hein, vous l'aurez lu ou plutôt entendu ici en premier, ce sera soit le meilleur Nolan, soit le plus pété. Et Dieu sait qu'il en a déjà fait des tout pétés, mais aussi des brillants. Pourquoi ? Parce que Le Prisonnier, alors tu l'as dit, c'est une série culte. Qu'est-ce que c'est comme série culte ? C'est une série dans laquelle Patrick McGoohan, incroyable comédien, que vous avez aussi pu voir dans quelques épisodes de Columbo, bah Patrick McGoohan, c'est un espion qui dépose sa démission, qui dit « hop, moi, c'est fini ». Il rentre chez lui et à peine rentré chez lui, il est endormi, kidnappé. Il se réveille sur une île où semble être présent ce qui pourrait être des espions à la retraite. Sont-ils amnésiques? Sont-ils menteurs? Il ne peut pas s'évader. Dès qu'il s'approche des limites du territoire, des machines, l'assomme et le ramène dans l'île. Personne n'a de prénom, tout le monde a des numéros. Et il semble bien sûr que les numéros les plus élevés, en dessous de 10, sont ceux qui possèdent le secret du lieu où on se trouve et dominent tout ça. Alors, c'est une série
qui a... c'est en l'occurrence une énorme boule blanche molle qu'ils appellent le gardien et qui l'étouffe à chaque fois qu'il essaie de s'enfuir. Vous avez pas vu Le Prisonnier?
Non.
C'est génial. Ça a été restauré il y a quelques années, il y a une édition Blu-ray magnifique.
Parce qu'en plus, il y a très peu d'épisodes, hein. Il doit y avoir une douzaine d'épisodes.
20, je dirais. 20.
Ouais, 17, dit voilà. Wikipédia.
Et surtout, lui est le numéro 6, et à chaque fois... Et
chaque épisode, tu découvres un nouveau numéro.
Il y a le numéro 2, qui est le responsable du village, voilà. Et la question, c'est qui est le numéro 1. Et le numéro 2 change à chaque épisode.
Mais c'est un loup-garou, quoi.
Ah non, mais attends, et pourquoi est-ce que je dis que ça, c'est très intéressant de la part de Nolan, et je dirais même assez courageux? Alors, la série peut sembler peut-être techniquement un tout petit peu vieillotte à certains, mais vraiment, elle est fascinante. Regardez-la. Il y a énormément d'immenses metteurs en scène qui sont allés piocher dedans. Et le premier d'entre eux, c'est Christopher Nolan, parce qu'il faut savoir que Inception, c'est un épisode du Prisonnier. Un épisode du Prisonnier où tout simplement les dirigeants de ce mystérieux village veulent savoir ce qu'il a dans la tête. Ah. Et donc, ils vont rentrer dans un de ses rêves, puis un rêve dans un rêve, etc. Et tout Inception, c'est dans, je crois, le cinquième ou le sixième épisode du Prisonnier. Et je vais pas vous en faire le détail tout de suite, mais il y a quasiment chaque concept ou high concept ou film de Nolan va piquer un truc du Prisonnier. Donc le fait qu'il peut-être il aille s'attaquer directement à la série, soit il va complètement se planter parce qu'il aura lui-même déjà vidé la truite, soit il va vraiment en proposer une relecture complète et qui pourrait être assez fofolle.
Vider la truite donc.
Oui.
Pourquoi pas.
Du nouveau pour nos amis, d'autres qui est 20e la Batavia.
C'était la petite sensation fantastique, insolite du dernier Festival de Cannes. Également récompensé, je dois dire un peu à la surprise générale, du Grand Prix du Festival Fantastique de Neuchâtel l'été dernier. Neuchâtel, c'est l'un des plus importants festivals de films de genre en Europe, avec Bruxelles, Sitges, etc. Eh bien, cette pépite indépendante, Tiger Stripe, de la réalisatrice malaisienne Amanda Nel Ehou, raconte l'histoire de Zafan, 12 ans, qui vit dans un petit village au milieu de la jungle et dont les transformations physiques liées à la puberté vont aller un peu plus loin que prévu. Tiger Stripes d'Amanda Nel Ehou avec Zafrin Zerizal. Est-ce que cette petite sensation, alors il faut bien préciser que ça sort dans très peu de salles en France, hein, mais néanmoins on en a beaucoup parlé, il y a quand même un gros buzz autour de ce film. On l'avait vu ensemble à Cannes, Sophie.
Oui.
Qu'est-ce qui t'en reste? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce buzz est justifié selon toi?
Alors je l'ai revu et il se trouve que, oui, pour moi le buzz est justifié parce que le film s'inscrit de manière très pertinente dans une longue série de films qui va parler de métamorphose de jeune fille pour parler des règles. Et c'est au final très récent qu'on parle littéralement de l'arrivée des règles avec la transformation monstrueuse, parce qu'on pouvait faire des parallèles avec Dark Shadows, on pouvait faire des parallèles via Ginger Snaps, mais ça reste des films relativement, soit c'est des passages anecdotiques, soit c'est des films assez confidentiels. Mais en fait, il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un autre film qui nous est... Enfin, il y a un autre film qui traite du sujet avec la monstruosité, c'est Alerte Rouge des studios Pixar. Et là, je trouve que le film va aborder exactement le même sujet, à savoir l'arrivée des règles, la monstruosité que la jeune fille va s'infliger à elle-même et comment au final il faut embrasser ça. Donc c'est un coming of age assez powerful. Donc moi sur la thématique, en plus je trouve que le film est très politique sur ce que ça dit de la société malaisienne et de l'enfermement des femmes en devenir, et non pas que des petites filles, mais dès qu'elles commencent à avoir une sorte d'affirmation, parce que Zafan, elle est pas juste en train d'avoir ses règles, elle aime se détacher les cheveux, elle aime ne pas porter le voile, elle aime aller sur internet, elle a envie de porter un soutien-gorge, elle a envie d'être une femme libre, et ça la société malaisienne veut l'interdire et du coup la transformer en monstre. monstre d'une certaine manière. Ça, je trouve que c'est passionnant. Le discours est super fin, super intelligent. Ça reste cependant un premier film assez fragile à certains, sur certains aspects. C'est pas hyper bien rythmé. Les effets spéciaux sont un peu cheap. Moi, je trouve que le film est globalement réussi. Je comprends la fougue parce que c'est un film qui mérite d'être soutenu pour son discours politique et pour ses références cinématographiques. Même Carrie, qui était un des premiers films de monstruosité en rapport avec les règles, et je trouve que ça crée une espèce de lignée de films sur le féminin super intéressant. Par contre, c'est un film vraiment pour initier. Hein. C'est vraiment pas un film à aller voir en se disant « Ah tiens, c'est un petit film de genre sympa, ça va me faire un peu peur ». Non, c'est plus complexe que ça.
Arthur ?
Moi, pour le coup, c'est un film que j'avais pas eu le temps de voir à Cannes, donc j'ai découvert il y a quelques heures. Et je rejoins tout à fait Sophie, c'est-à-dire que je vois plein de belles intentions. Je comprends effectivement l'économie dans laquelle le film s'est fait, c'est-à-dire qu'on voit que c'est de la débrouille permanence, ce qui donne des moments où les effets spéciaux sont cheap, mais je trouve que c'est presque sympathique. Il y a notamment un moment où le personnage va grimper un arbre, où c'est quasi du stop motion, ça rend le truc assez sympathique. Moi, c'est pas ça qui va me gêner. Après, en fait, le truc, c'est que c'est difficile de dire du mal d'un film avec ce genre de discours qui sont importants ou en tout cas qui veulent tellement bien faire sans rentrer dans un truc un peu contre-productif. Je trouve pas que le film soit trop imposant dans son discours. Au contraire, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Il est plutôt assez fin, mais il y a des moments où je le trouve vraiment maladroit.
Ouais.
Il y a des moments où je le trouve vraiment maladroit. Je le trouve d'une certaine ambition et en même temps, je peux pas m'empêcher de trouver le film trop long. Et il y a notamment une séquence de camping qui est vraiment 10 minutes en trop, quoi. Enfin, vraiment. Et plus j'y pense et plus je me dis, il y a ces 10 minutes là, mais en fait il y en a ces minutes ici, et peut-être qu'en fait ça aurait pu être un court métrage de 45 minutes. Il n'empêche qu'effectivement le cinéma malaisien on ne voit pas souvent, que des premiers longs comme ça c'est pas simple à produire, à diffuser, à montrer, et heureusement qu'il y a eu d'une certaine manière, et peut-être que plus sur le message féministe, c'est plus sur ce type de production là de voir qu'il a été récompensé à la semaine de la critique et qu'on peut le voir récompensé au Ciné Châtel, bah ça lui donne une exposition qu'il n'aurait pas eu sinon. Et effectivement, il faut toujours encourager à aller voir des films différents, à s'interroger dans son regard cinéphilique, à voir des décors qu'on ne connaît peut-être pas, à voir des personnages qu'on n'a peut-être jamais vus, à entendre une langue avec laquelle on n'est peut-être pas familier. Il n'empêche que je peux pas m'empêcher de trouver que malgré toutes ses bonnes intentions et sa mignonnerie, vraiment des petites faiblesses, des moments où je trouve que les personnages sont un peu sous-écrits, ou je trouve pas, notamment le conflit avec la mère, je trouve pas assez exploité, alors qu'il y a le conflit avec les copines qui est déjà largement suffisant et prenant. Elle veut raconter plein de choses et en même temps elle le raconte en très peu de temps, et enfin bref, c'est pas entièrement réussi, mais difficile de tirer à boulet rouge dessus pour autant.
Non, mais il n'est pas question de tirer à boulet rouge.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Plusieurs petites précisions. C'est une réalisatrice malaisienne, mais qui a été diplômée de London Film School, qui a donc fait ses études en Grande-Bretagne. Autre détail intéressant, c'est que le film, qui a par ailleurs également, j'ai oublié de le mentionner, reçu le Grand Prix de la critique, de la semaine de la critique à Cannes, a été diffusé en Malaisie en étant censuré. Il y a des scènes qui ont été coupées, notamment une scène qui montrait du sang sur une serviette hygiénique, une autre scène où la jeune fille danse dans la cascade les cheveux lâchés, ce qui a suscité évidemment des réflexions assez acerbes de la réalisatrice, si ce n'est qu'il a fini par être disponible en Malaisie en version intégrale sur Netflix. Simon, est-ce que tu en gardes aussi, tu l'avais pas vu à Cannes toi par ailleurs?
Si, moi je l'ai vu avant vous justement, c'est moi qui vous avais recommandé de le voir et vous étiez revenu mi-figue mi-raisin, c'est moi qui l'ai vu en premier, je l'ai vu à première diff.
Bravo.
Non, c'est pas ça, mais je veux dire, oui, effectivement, je l'ai vu juste avant vous et vous êtes allé le voir. Justement, je vous avais dit, allez, c'est un peu fragile, mais allez-y. Mais non, alors je vais pas répéter ce que vous venez de dire sur les faiblesses du film. C'est effectivement, c'est pas très bien écrit, pas très bien caractérisé. Exception faite, effectivement, des relations entre les gamines. Mais et puis on a toujours un peu l'impression, enfin, on peut avoir l'impression que le film, sans être cynique, parce qu'il ne l'est pas, enfin, il ne le semble pas en tout cas, est un peu fabriqué. Néanmoins, moi, il y a quelque chose qui me touche, m'intéresse et m'amuse, c'est de voir se rencontrer deux éléments qui d'habitude coexistent pas, ne cohabitent pas dans les mêmes images. C'est effectivement un discours social sur le féminin, un féminin contrarié pour le coup, empêché, et qu'on voit chez des enfants. c'est pas si fréquent. C'est, tu vois, même Mustang, c'est des adolescentes de 15-17 ans, tu vois. Enfin, on voit souvent ça chez des personnages dont la réflexion, le rapport aux autres est plus développé, plus construit. Voir comment ça se joue chez les enfants, parce que chez les enfants, on va dire, la complicité avec l'autorité, elle peut aussi être beaucoup plus évidente, beaucoup plus forte. Donc ça, c'est un truc intéressant. Et ça, ça vient entrer en collision avec, vous le disiez, un film qui est fait avec 3 balles. Mais comme il est fait avec 3 balles, il doit utiliser plein de techniques. Tu parlais de la scène sur l'arbre. Effectivement, c'est très littéralement du stop motion, vu que c'est une suite de photogrammes fixes. Tu as littéralement, quand elle se transforme en espèce de tigrou, bah, c'est du maquillage, hein, avec trois feuilles de palmier. Ce que je veux dire, c'est que cette énergie-là, cette variété dans l'utilisation des techniques.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ben c'est très proche du cartoon, je trouve. Et ça, la rencontre entre un truc qui est totalement artificiel, à savoir le cartoon, et quelque chose qui se veut très en prise avec une réalité sociale, pour moi, ça crée des espèces de petits moments de poésie, des petits moments suspendus. Typiquement, moi, la séquence du camping, dont je me rappelle peu, mais je me souviens que cette espèce de nuit. Non, mais tu vois, mais je me souviens qu'à l'inverse, cette séquence qui est en nuit américaine bleue, si ma mémoire est bonne, je me souviens que je l'avais trouvée très, très plaisante. Alors oui, il y a de gros problèmes d'écriture. Oui, c'est un film qui est mal équilibré par plein d'endroits, par plein d'aspects, mais qui recèle aussi plein de joliesse.
Et ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que dans le côté cartoon, on pourrait s'imaginer à quelque chose d'assez candide et naïf. Il y a quand même quelques moments assez crasse-pouille, hein. Notamment avec des ongles, il y a des séquences. Pas simple, et je trouve ça intéressant de mélanger justement du gore, mais en tout cas de la douleur physique pas simple avec effectivement un côté quasi Wes Anderson sur certains aspects.
Pour refaire un petit parallèle avec Alerte Rouge, parce qu'au final les films ont littéralement le même postulat. Moi j'aime pas trop Alerte Rouge parce que justement je trouve que ça traite pas la monstruosité de la bonne manière, parce que c'est elle qui va dire oh mon dieu mais je suis tellement un monstre, alors que c'est littéralement un gros panda que toutes ses copines adorent. Là je trouve que le film va parler de cette contradiction du monstrueux, du corps qui change et de ce corps qu'on rejette. Et là où Pixar, comme ça s'adresse vraiment que aux enfants, bah, ils n'ont pas choisi le bon monstre, parce que ce gros panda trop mignon, bah, en fait, on a presque envie de l'être. Alors que là, bah, ce tigre, il est pas joli, quoi. Il est les pattes, elles sont vraiment masculine, nerveuse, genre il y a quelque chose de l'ordre
avec des ongles dégueulasses.
Elle perd ses cheveux, et en fait c'est ce que la société projette d'elle, alors que bah la société ne projette jamais ce qui est un gros panda roux mignon pour une jeune fille qui a ses règles. Donc moi là je trouve qu'elle a vraiment tapé juste sur la représentation du masculin.
Oula, joli lapsus, gardons-le.
Sur la représentation du féminin contrarié, et pour moi c'est pour ça que je fais un parallèle avec Carrie. C'est le regard des autres qui va la pousser à devenir monstrueuse, et c'est pas son corps elle-même. Hein. Enfin, c'est ça qui est super intéressant dans le film.
Je sais pas pourquoi tu dis un panda roux, parce que c'est très objectivement un tigre. Hein.
Non, Alerte
Rouge. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais raté.
Elle, c'est un tigre moche, alors que l'autre, c'est un panda trop mignon.
Oui, alors moi pareil, c'est un film qui s'affaiblit avec le temps. C'est-à-dire que je l'ai pas revu depuis Cannes. J'en ai revu quelques extraits encore une fois, c'est évidemment un cinéma qu'il faut encourager. Allez le voir parce que c'est du cinéma qu'on voit peu, que c'est effectivement une curiosité, que c'est une approche par le genre pour parler des phénomènes de société, et tout ça est très bien. Mais c'est quand même vraiment un film quasiment de sortie d'école. C'est un film d'une maladresse terrible partout, dans les plans, dans l'écriture des personnages. Ça reste vraiment un film fait de briques et de brocs.
C'est très fragile.
C'est un film cinématographiquement très fragile et très, vraiment très démerdard, alors très démerdard dans le bon sens du terme, mais démerdard qui ne fait pas du très bon cinéma, soyons très objectifs. Et je ne sais pas si c'est bien de le penser ou de le formuler comme ça, et je trouve ça très bien que ce film-là et les festivals servent exactement à aller défricher ces films, à permettre aux gens de les voir, et je suis ravi que ce film soit distribué, même si c'est dans un très petit nombre de salles, de là lui filer le Grand Prix de la Semaine de la Critique et le Grand Prix de Neuchâtel, sans déconner, Smandou les gars, quoi. Enfin, ou les nanas. Non, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que,
non, mais je comprends ce que tu veux dire,
ça,
mais.
Je trouve qu'on est à la frontière d'un léger paternalisme occidental.
Ah oui, non, mais il y a un peu de fétichisation du film, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils sont doués, ces petits Malaisiens, avec leur film de tigre.
Avec leur film de tigre qui ont ses règles.
Surtout vraiment, que la Semaine de la Critique avait le ravissement, hein, cette année-là.
Ouais, ouais. Et puis à Neuchâtel, il y avait aussi du lourd. Donc, voilà. Allez-y, parce que c'est intéressant. Ça reste un film.
Et en même temps.
En termes de mise en scène, de réalisation, ça reste un film très médiocre.
Et en même temps, c'est ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas justement parce qu'il a eu ces prix-là que du coup il a pu avoir un distributeur et qu'il
s'enchaîne ? Peut-être, tout à fait.
C'est pas justement le rôle des festivals à ce niveau-là aussi, quelque
Alors,
part.
Tout à fait, mais en revanche, à nous aussi de prévenir les spectateurs qui vont voir un film qui est bricolé, qui a dû se faire dans des conditions très difficiles et quasi clandestinité, et que ça s'en ressent.
Ouais. Je suis d'accord.
Tiger Stripes d'Amanda Nel Ehou avec Zafrine Zerizal, vous pouvez aller le voir, nous dire évidemment ce que vous en pensez et puis nous dire surtout si vous êtes plutôt Ray du Tigre ou Ray du Maçon.
Pourquoi Simon se détourne là ? Vas-y, réponds, vas-y.
Je sais pas, moi j'arrive pas bien à construire les murs.
Vous savez ce que dit un tigre lorsqu'il rencontre une tigresse ? Non, on est fait l'un pour l'autre.
Oh.
Je pensais ma règle sur les 49 boules. Ma blague, pardon, ma règle.
Allez,
on va pas la couper celle-là. Dans la série Bizarrerie cinématographique, Guillaume Niclou sait y faire. Après l'enlèvement de Michel Houellebecq et Thalasso, le réalisateur retrouve sa muse toute pourrie, Michel Houellebecq, donc, pour son nouveau film dans lequel Blanche Gardin préside en Guadeloupe un concours de sosie de Michel Houellebecq, donc, auquel se rend le vrai Michel Houellebecq, ce qui fait beaucoup trop de Michel Houellebecq en si peu de phrases.
Eh hey Michel, viens nous rejoindre, elle est bonne. Allez mon Billy. Oh, c'est une star.
Michel ?
Je suis mort.
Dans la peau de Blanche Houellebecq, de Guillaume Niclou avec Blanche Gardin et...
Michel Houellebecq ?
Merci de suivre. alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce film Guillaume Niclou, c'est toujours par la tangente. C'est-à-dire que c'est un cinéma très particulier, un peu provocateur, parfois très réac, la tour.
Et parfois pas du tout.
Qu'est-ce que ça donne ? Et puis c'est vrai que Michel Houellebecq, qu'on connaît ses positions, qui n'ont pas franchement des positions de
vieux poivre fasciste.
De grand turiféraire de la gauche humaniste. Blanche Gardin, tout ça fait une sorte de mélange très étrange, mais auquel toi, tu es assez sensible finalement, Simon.
Tout à fait.
Sors d'ici. Non, pardon.
Alors, pour vous dire un peu d'où je parle, moi, il y a certains films de Guillaume Niclou que je trouve absolument brillants et passionnants, des récents comme des un petit peu plus anciens. Je vais pas vous faire toute la liste tout de suite, ce serait un petit peu fastidieux. Michel Houellebecq, je considère que jusqu'à Plateforme inclus, ça a été un écrivain français passionnant à défaut d'être grand, et que depuis c'est un piscopie content de lui qui ne vaut pas le prix d'un cubit de villageoise. Et quant à Blanche Gardin, c'est un petit peu pareil, c'est un peu en dents de scie. Ça a été en tout cas une de nos plus remarquables comédiennes et humoristes, avant que tout récemment elle s'enferme un petit peu dans un espèce de rôle de réac un peu molle, pétri d'autofiction. Bah du coup, j'étais quand même curieux de voir ce qu'allait donner cet attelage. Et bah cet attelage, il m'a plutôt surpris parce que certes, c'est bordélique, c'est très irrégulier. Néanmoins, j'ai rarement... Enfin, ça faisait longtemps, je pense, depuis les premiers Quentin Dupieux, et à bien des égards, c'est un bon Quentin Dupieux, ce film, que j'avais pas vu un film aussi libre dans sa forme, libre dans son ton, capable à ce point-là de travailler ce genre qui est pas évident à définir, qu'on appelle l'absurde. Et ben là, c'est un film authentiquement absurde. C'est pas Quentin Dupieux jouant un Quentin Dupieux qui regarde Quentin Dupieux, qui ferait presque du Quentin Dupieux.
Il y a beaucoup trop de Quentin Dupieux dans une seule phrase.
Oui, mais c'était pour équilibrer avec
Michel Houellebecq. Pardon.
Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que je me doute bien que c'est quoi, c'est le troisième, quatrième film. Il y a tout un mouvement dans l'œuvre de Niclou autour de Michel Houellebecq, qui a commencé avec l'enlèvement de Michel Houellebecq, vrai fou film d'enlèvement avec un vrai faux Michel Houellebecq, aussi vrai que faux.
Qui était pour le coup assez hilarant, il faut bien le dire.
Bah oui, mais tu vois, on est plutôt dans cette veine-là. C'est moins abouti théoriquement, intellectuellement, mais c'est quand même vraiment pas mal du tout. Et donc en gros, il y a un mélange de réflexions sur le vrai, sur le faux, sur la connerie. C'est un vrai film sur la connerie. C'est-à-dire que moi, quand je sors du film, je serais bien normal d'affirmer ce que pense Guillaume Nicloux de Michel Houellebecq. Parce que véritablement, on sent qu'il est dans un mélange de fascination et de déception qui lui en met plein la gueule. Le seul vrai problème du film pour moi, c'est Blanche Gardin, qui est pas du tout à l'aise, qui joue très mal, qui est fausse pendant presque tout le film, parce que je pense qu'elle doit jouer en mode ultra naturel et comme si c'était un quasi-documentaire, un personnage qui n'est pas elle du tout. Et là, ça casse. Là, ça marche pas du tout. Et il y a des séquences entières où elle est complètement à côté de la plaque.
Mais peut-être, Arthur, avant de donner ton avis, on peut revenir, puisque donc, outre cette histoire de sosie, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi le fil conducteur?
Ah, bah, c'est ça, c'est Michel Houellebecq qui. Alors, ça commence par Houellebecq qui rencontre Gaspard Noé. Il y a Jean-Pascal Zadi et Françoise Lebrun qui arrivent. Et on comprend qu'il doit prendre l'avion vite pour aller donc rejoindre le jury d'un prix. On comprend pas trop ce qu'est le prix. Puis il arrive et il est accueilli, donc c'est très compliqué. C'est un peu le bordel. Et puis, donc, il y a Blanche Gardin qui est là. Et on comprend qu'en fait, c'est donc un prix du meilleur sosie de Michel Houellebecq. Donc il est en Guadeloupe, il rencontre Blanche Gardin, il rencontre le jury. Dans le jury, il y a notamment Ichon, qui est un rappeur que l'on connaît sans doute, que vous connaissez sans doute. Et il va se passer des petites anomalies, des petites péripéties.
Ça
picole beaucoup. Il y a un moment, il y a le garde du corps qui va être dans une embrouille et ils vont être attrapés par la police. Et
ça prend
et
des champotes.
Et il ne se passe rien. Et en même temps, voilà, c'est le film. En fait, c'est un film où il ne se passe volontairement pas grand-chose.
Ça donne super envie, hein.
Ah bah après peut-être que je l'ai raconté comme moi je l'ai ressenti, à savoir que peut-être que je suis moins dithyrambique que Simon, mais ça
je suis pas dithyrambique, je suis pas dithyrambique, je trouve que c'est un film absurde, assez étonnant. Et
alors Arthur, du coup ton avis?
En fait moi ce qu'il faut comprendre c'est aussi que je n'ai pas je connais pas bien cette partie de la filmographie de Guillaume Nicloux. J'ai pas vu Talasso, l'enlèvement. Moi ce que je connais de Nicloux, c'est des trucs qui m'intéressent un peu plus, c'est notamment Les Confins du Monde, où moi que je trouve être un film vraiment incroyable avec Gaspard Ulliel, Les Guerres d'Indochine, c'est assez fou. Et quand je vois Nicloux, que je sais du coup, parce que je l'ai vu faire avec Gaspard Ulliel, être un réalisateur qui peut maîtriser sa caméra de manière absolument magnifique et faire des images sublimes, faire un film avec une caméra DTV faussement amateur, bah déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas. J'ai du mal à saisir la démarche. Et je sais que c'est peu ou prou la démarche qu'il avait déjà dans ses films précédents avec Michel Houellebecq, mais du coup, moi, je n'arrive pas à bien comprendre le projet. Et même de manière générale, j'arrive pas à bien comprendre ce que veut dire Nicloux. Tu dis que Nicloux n'aime sans doute pas trop ou est un peu déçu des positionnements de Houellebecq. Moi, ça me met un peu mal à l'aise parce que, en gros, pour la faire courte, il y a à 3 ou 4 moments le personnage notamment de Blanche Gardin qui va dire: mais Michel, t'as fait de la merde quand même à aller traîner avec ce connard d'extrême droite dans une interview.
Il le traite comme une merde pendant tout le film. C'est une espèce de pignata en pied rosé, quoi.
Laisse-moi terminer. Et en fait, donc, il y a ce truc où plusieurs fois on lui dit: mais pourquoi t'as fait ça, Michel? Et il fait: oh, bah, je sais pas. Et en fait, il y a un peu un côté où c'est pas mal de mettre sa tête dans son caca, qui réalise qu'effectivement, il a vraiment fait de la merde. Sauf que j'ai l'impression que le film n'arrête pas de le dédouaner de ça, de l'excuser, du coup, parce que bah, j'ai pas réalisé. Et il dit ça 5 fois. Bah, je sais pas. Et ben, si tu sais pas, frérot, bah, peut-être que dans ces cas-là, fais pas des interviews avec des gens chauves qui ont l'air d'être très effrayants. Enfin, j'ai l'impression que ce film n'arrête pas de dire à Michel Houellebecq: t'es un petit peu bête. Mais c'est pas grave, parce qu'à côté de ça, t'es brillant, donc c'est ok. Et moi, je suis vraiment mal à l'aise avec cette posture-là. Mais juste pour terminer, parce que je vais pas dire que c'est juste la posture politique qui peut me gêner dans le film. Il y a des trucs qui sont vraiment rigolos. Il y a Francky Vincent qui vient chanter la Marseillaise. Désolé, mais ça, quoi qu'on en pense, ça fonctionne.
Peut-être sur vous. Moi, Francky Vincent ne m'a jamais fait rire. Francky Vincent est une espèce de connard, misogyne, dégueulasse, qui fait sa carrière sur le fait qu'on se foute de sa gueule. Enfin, moi, ce mec ne m'a jamais fait rire une seule seconde.
Ok, bah ouais. Du coup tu risques de pas beaucoup rire sur le reste du film.
Mais comme
du
Michel Houellebecq ne m'amuse pas beaucoup non plus, mais je veux dire, je ne l'ai pas vu volontairement parce que je sais que moi ça va me sortir par les yeux. Donc c'est une position de principe, hein, donc peut-être que je me trompe. Mais
non, mais en fait moi il y a quelques endroits où je trouve le film assez surprenant. Je t'ai dit le caméo de Jean-Pascal Zadi au début, je l'avais pas vu venir. Voir Gaspard Noé qui essaie de lui pitcher un film à Houellebecq, assez surprenant. Moi voir Ichon qui est un rappeur que j'aime vraiment beaucoup dans ce jury-là, pourquoi pas. Le problème c'est que vraiment le fond du film je gratte un peu et je suis pas sûr de bien saisir ce qu'il essaie de me raconter. Mais de ce que je crois percevoir, ça me plaît pas trop. Mais peut-être qu'effectivement, j'extrapole un petit peu le propos et que Simon trouve que c'est pas du tout ça ce que va raconter Nicloux. Mais c'est comme ça que moi je le perçois en tout cas.
Alors, moi, ce qui me semble, c'est que depuis l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui raconte, on va dire, à la manière d'une espèce de fiction naturaliste tournée justement à la caméra DV, comme si c'était saisi sur l'instant, l'enlèvement de Michel Houellebecq, qui n'a pas eu lieu, il me semble que Nicloux lui tente une expérience et qu'il fait un pari, c'est qu'il dit qu'en gros, Michel Houellebecq écrivain, c'est terminé. Bon, ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire depuis son prix Goncourt, qui était déjà très mauvais, c'est quelqu'un qui se regarde écrire et qui essaye d'écrire pour une légende qui n'existe plus et qui a fait de son style épuré, désossé, un style de mollusque. Et véritablement, je pense que Nicloux considère que aujourd'hui, Michel Houellebecq est plus un monstre et un objet de cinéma qu'un écrivain. Et donc il le filme comme un écrivain vidé de toute substance, mais vraiment qui n'est plus rien, qui est complètement creux, tellement creux que l'objet de sa vie à l'instant T dans ce récit, c'est un concours de sosie de lui. Lui qui ne ressemble plus à rien, dont le corps est montré comme un espèce de truc asséché, clochardisé. Et donc véritablement, pour moi, c'est pas un film qui essaye d'excuser Houellebecq, et encore une fois Houellebecq dont moi les derniers livres me sortent par les yeux, donc tu vois j'attends pas qu'on en dise du bien, je viens pas à la recherche de ça. C'est quelqu'un qui regarde cette espèce de corps de ce qui est la figure de l'écrivain d'extrême droite en France, qui est une figure qui culturellement est ancienne en France, qui est souvent portée au nu, je veux dire c'est pas nouveau, et qui la regarde comme un petit corps rapiécé, tout juste bon à vomir son rosé, très littéralement.
Mais je l'aime bien quand même au fond, parce qu'au fond il est quand même sympa, Michel.
Non, il en rit et il le trouve drôle, et il y a quelque chose de pathétique.
Il rit avec.
Dans le pathé, oui, mais bien sûr, mais dans le pathé. Mais attends, moi je vais pas voir un film pour voir un commissaire du salut public me dire sur qui il faut tirer. Ah, heureusement qu'il a un peu d'empathie pour lui. Heureusement qu'il a un peu d'empathie pour ce petit être Craspec.
Craspouille. Craspougnasse. Ça, c'est toi, Craspougnasse.
C'est toi, Craspougnac.
Moi, c'est Craspouille.
Craspouille. Heureusement qu'il a un peu d'empathie quand même pour cet être-là. Mais moi, à aucun moment, je me dis, en vrai, Houellebecq, quel grand écrivain. Je me dis, genre, franchement, comme Pochavin, bon, ça passe. Et en plus de ça, je trouve que le film est authentiquement absurde. Et alors, il n'est pas au niveau d'un Grosse Fatigue de Michel Blanc. Loin s'en faut. Mais on est pour moi dans ces fourches codines de l'absurde que je trouve assez rarement sur grand écran.
Eh bien, vous pouvez aller vous faire votre propre opinion en allant voir Dans la peau de Blanche Houellebecq de Guillaume Niclou avec Blanche Gardin et
Michel Houellebecq.
Claude Nougaro.
Je suis pas censé participer Vincent à cette chronique.
Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt partir en Guadeloupe avec Michel Houellebecq ou à Val Thorens avec Yann Moix.
Oh, bah au moins en Guadeloupe il fait beau.
C'est le succès qui a pulvérisé le box-office italien l'an dernier avec plus de 5 millions d'entrées et 32 millions d'euros de recettes. C'è ancora domani, Il reste encore demain, débarque donc cette semaine sur les écrans français. Film à cheval entre les genres, il raconte dans un noir et blanc assez épuré l'histoire de Delia, mère au foyer dans une famille pauvre au sortir de la guerre, victime de violences conjugales, de l'indifférence voire de la détestation de ses propres enfants, le tout sur un ton de comédie noire qui lorgne même vers la comédie musicale.
Se vuoi sapere che c'hai ancora testa vuota te? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una manasti incapace di tua madre.
Il reste encore demain de et avec Paola Cortellesi, qui était une actrice italienne dont c'est le premier long métrage en tant que réalisatrice. Sophie, qu'en as-tu pensé ?
J'étais très très hypée par le film et par sa bande-annonce, par son sujet, et donc j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme, et j'avoue que c'est un peu la douche froide. Je suis désolée, je trouve pas du tout, pour anticiper, je trouve pas du tout que le film soit raté, hein. C'est pas une mauvaise note non plus, c'est pile la moyenne, parce que j'ai toujours du mal avec le noir et blanc gratuit, et là je trouve qu'il sert à rien. Je trouve qu'il va créer une forme d'esthétisme que je comprends pas. C'est comme, je pense qu'Arthur en parlera un peu plus, mais il y a un parti pris un peu comédie musicale qui me cringe un peu sur les moments de violence conjugale que je trouve un peu étrange. Et là où je suis assez charmée par ces histoires qui s'entrecroisent sur ce chemin permanent que va faire l'actrice principale entre son foyer, le marché, ses copines, il y a quelque chose de très répétitif et on voit la progression petit à petit de la mentalité des femmes par rapport à leurs conditions. Ça, je trouve ça assez joli. Mais le film veut traiter une histoire super intime, à savoir une femme qui se fait battre par son mari au retour de la guerre et qui ne s'entend plus avec ses deux garçons et qui va se mêler du futur mariage de sa fille pour comme casser la malédiction de l'emprise masculine sur les femmes italiennes, pour arriver à quelque chose pour moi qui n'a aucun rapport avec ce que nous raconte cette histoire-là. En fait, il y a un fil tenseur qui n'est jamais vraiment résolu et une fin que je trouve complètement à côté.
Pas d'accord du tout, mais on continue, je vous donnerai mon avis après, mais vas-y, je suis vraiment pas d'accord du tout, mais vas-y.
Eh ben, on n'est plus d'accord.
Non, on n'est plus d'accord, ça marche.
Mais je sais pas. Je suis un peu malade aujourd'hui. Non, je trouve pas que ce soit raté, mais c'est en fait, je crois que je trouve que le film a sans arrêt le cul entre deux chaises et j'arrive jamais trop à savoir comment me situer par rapport à son discours. Voilà, je sais pas si vous racontez une grande ou une petite histoire et je trouve que la petite histoire s'imbrique pas tellement dans la grande et en fait quand on regarde une histoire d'amour ou quand on regarde une histoire, un drame, ça va déclencher quelque chose de l'ordre de l'intime et du parcours d'un personnage. Et là, j'avais envie de résoudre son histoire intime pour parler de la grande histoire, mais c'est pas le seul film qui m'a fait ça et j'ai du mal à trouver. Il y a un autre film qui m'a fait exactement le même effet, peut-être que ça me reviendra au cours de l'émission. Mais voilà, je trouve ça ni fondamentalement mal fait, mais je trouve qu'il manque une sorte de cohérence d'écriture qui me gêne un peu.
Arthur.
Moi, c'est un projet qui m'intriguait beaucoup et pas juste parce que c'est un film qui a fait un gros succès. En fait, c'est que j'ai vraiment suivi de près tout ce qui s'est passé. Il faut avoir, un peu le bagage de ce que est le film concrètement pour mieux pouvoir l'approcher, je pense. Et je dis ça parce que vraiment, sur plein d'aspects, le film est une anomalie. Et vraiment, je le dis très sincèrement. Il faut savoir que Paola Cortellesi, au départ, c'est une actrice. C'est une actrice très connue des comédies italiennes depuis quasiment 20 ans. Par exemple, pour vous donner une idée, c'est elle qui joue la maman dans le remake italien de Papa ou Maman, la comédie française qu'il y avait eu avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Elle est très populaire. Elle a pris la parole depuis quelques années sur justement les violences conjugales. Et elle fait ce premier film qui est donc un film d'inspiration, le néo-réalisme italien, dans ce noir et blanc, dans cette manière de filmer les décors réels, etc. Paola Cortellesi qui galère un peu à le financer parce qu'elle le finance au moment où l'Italie est clairement d'extrême droite avec une première ministre qui n'est pas hyper portée sur le droit pour les femmes. Et dans un contexte de féminicide assez violent. Et en fait, c'est ça qui a porté le film à avoir un tel succès. C'est qu'avoir d'un seul coup, alors qu'on a des faits divers, et vraiment, si je ne me trompe pas, il y a eu un féminicide d'une gamine de 17 ans qui a vraiment fait beaucoup de bruit en Italie au moment où le film est sorti. Au moment où les salles italiennes ne se sont pas remis du Covid, où le circuit des salles a diminué de quasiment un tiers, c'est dramatique. Avoir un film qui d'un seul coup peut avoir cette aura-là, qui parle de ce sujet-là d'une manière où on regarde vers le passé et en même temps on comprend de ce dont on parle dans le présent, qui va ramener 5 millions de gens en salle, mais c'est énorme, c'est 10% de la population.
C'est plus que Barbie, c'est plus que, enfin, c'est énorme. C'est le plus gros score de l'année en termes de cinéma ou box-office.
Et en fait, donc ce succès-là, il s'explique évidemment parce qu'il y a ce contexte sociopolitique en Italie. Il s'explique aussi parce qu'il est dans une veine d'une tradition italienne, hein, pas que dans le néo-réalisme, mais aussi dans ces comédies un petit peu oniriques, un petit peu qui vont chercher à varier dans les genres, etc. Ce sont des codes que nous n'avons pas en France. D'une certaine manière. En tout cas, pas de cette manière. Non, mais attends.
Non, mais c'est juste que je connais plutôt bien le cinéma italien. Je l'ai étudié à la fac en
oui,
grande
on connaît,
partie.
On connaît le cinéma italien des années 60-70. On connaît. Et bah,
auquel le film fait
Je suis d'accord, mais.
Mais tu vois, pour moi, le néo-réalisme, ça va être plutôt Visconti. Donc, ça va être des plans très fixes. Ça va être des dialogues très longs, une musique assez sourde, qui pèse, qui crée une ambiance. Et pour par ailleurs, il y a la comédie italienne qui va être incarnée par le Marcello Mastroianni de Divorce à l'italienne, tu vois, par exemple. Et qui, pour moi, n'a aucun rapport avec le film que je vois, qui, par exemple, ne serait-ce que la fin, qui a, sans révéler la fin, mais qui a une musique super moderne, qui, pour moi, vient faire une espèce de wink-wink, un peu, genre, ouais,
sachant que juste avant le podcast.
Elle l'utilise, le rapport à la musique est très important dans le film, et oui. Elle fait en permanence des allers-retours entre des musiques et de la musique de variété italienne et de la musique moderne et de la musique ancienne.
Pour te donner un exemple plus précis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans mon marathon Festival de Cannes, si vous n'avez pas suivi, je vous renvoie vers l'épisode Patrimoine de il y a quelques jours, j'ai découvert Rome, ville ouverte de Rossellini. Noir et blanc, la ville de très près, on suit les personnages, on s'insère dans le domicile de cette manière-là. Enfin, c'est clairement ce type d'inspiration-là. Mais elle le dit, elle s'inspire aussi des comédies récentes. Enfin bref, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que le succès du film en Italie s'explique très facilement et que nous, spectateurs français, je pense que nous n'avons pas forcément tous les codes pour l'apprécier. Moi, personnellement, il y a plein d'aspects qui m'ont un peu fait grincer des dents. Notamment, il y a une scène volontairement d'onirisme, et c'est une manière, je pense, pour la cinéaste, enfin, c'est ce qu'elle dit en interview, mais de rendre accessible des scènes de violence conjugale aux plus jeunes, sans que ce soit trop difficile ou choquant. L'une des plus grandes scènes de violence se passe par une scène de danse.
De comédie musicale.
De danse et de comédie musicale.
À un moment donné, il y a un spot, il y a une poursuite, on change de rythme, et elle se fait battre et c'est chorégraphique comme une danse de salon.
Et en fait, c'est pas anodin que tu aies parlé de Barbie tout à l'heure, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons sur « il a fait mieux que Barbie », parce que c'est un petit peu, d'une certaine manière, le féminisme expliqué au nul, entre gros guillemets, entre vraiment gros guillemets. Et c'est pour ça qu'elle a voulu insérer autant d'humour, même si parfois, moi, il y a des moments où la maladresse du personnage, je pense que ça tourne en rond et ça n'apporte pas grand-chose à la caractérisation de son personnage à elle, que cette scène de danse, je comprends pourquoi elle le fait, moi, ça me met personnellement très mal à l'aise, parce que je n'arrive pas à ne pas le percevoir comme une espèce de... Putain, c'est horrible ce que je veux dire, je suis désolé, parce que je sais que c'est pas le cas, une banalisation de la violence. J'ai l'impression qu'elle enjolive quelque chose...
Mais allez-y.
C'est mon ressenti, en tout cas. Et je trouve que voilà, c'est un film qui veut raconter plein de choses. J'ai pas du tout ton ressenti, par contre, Sophie, sur la fin. Je comprends très bien la continuité du propos sur quel va être le premier biais de libération des femmes de violence conjugale.
On dit rien parce que c'est un enjeu, c'est un vrai enjeu.
Oui, c'est un vrai enjeu. Je dis rien de plus, mais disons que la fin, du coup, je la comprends dans la continuité du discours. Mais voilà, je pense que c'est un film qui est pas simple à aborder et qui est très riche, peut-être trop, et qui a plein d'aspects qui sont très italiens que peut-être moi je n'ai pas. En tout cas, je n'ai peut-être pas les codes pour tout saisir. Et moi, il y a plein de moments où ça ne me fait pas rire, des moments où ça me fait rire, mais je suis pas sûr que c'est censé me faire rire à ce moment-là. Et des moments où, par exemple, enfin, désolé, ça c'est pas un spoil, mais il y a une scène de mousse au chocolat avec les dents marron, bah ça ne me fait pas du tout rire. Et tu sens que c'est une scène très...
J'ai jamais mangé du caca, toi.
Voilà, exactement. Et tu sens que c'est vraiment fait pour faire rire, et tu sais que cette... Ah si.
Bon, moi je pense pas que ce soit fait pour
faire rire. Ah bah, pour le coup, on va parler avec des gens d'Universal, si.
Je pense pas que ce soit fait pour faire rire, par ailleurs. Simon.
Bah voilà un film intéressant, parce que, on l'a tous rappelé, il a eu un succès énorme, gigantesque, historique en Italie, pays qui fut le premier pays au monde du cinéma, pays dans lequel le cinéma est aujourd'hui en fâcheuse posture, il n'y a plus de salles, il n'y a plus de spectateurs, et en gros, d'un point de vue... légal, réglementaire, Berlusconi a très littéralement vendu à la découpe l'industrie du cinéma italien. Et ce film fait 5 millions d'entrées. Comment se fait-il que ce film fait 5 millions d'entrées, sachant que, je crois que c'est toi Arthur qui en disait un mot, en Italie, l'Italie, elle n'est pas franchement MeToo. C'est-à-dire qu'on a dit et commenté tant en 2018, au surgissement des premières affaires, que encore tout récemment, qu'il y avait en France une défiance contre les révélations, contre la parole des femmes. Ce qui est partiellement vrai. Mais si en France, il y a une défiance, en Italie, c'est pas une défiance, c'est une levée de bouclier avec lancée de torche en l'air, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'en Italie, il y a eu une réaction du corps social, et du corps social, pas uniquement des médias, hein, de pure hostilité aux femmes qui osaient prendre la parole, et un truc d'une violence qui est inconcevable tant aux États-Unis qu'en France que dans le reste de l'Europe. Vraiment, enfin si, il y a ça, peut-être en Pologne ou en Hongrie, mais vraiment, ça a été un truc extrêmement brutal. Donc il faut se demander comment ça se fait que dans ce pays-là, qui n'a pas fondamentalement changé depuis 2018, où les femmes n'ont pas pris le pouvoir, elles n'ont pas renversé la table, Giorgia Meloni, c'est pas exactement Rosa Parks, pas tout à fait quoi. Et donc on peut se demander comment ça se fait que le film fait 5 millions d'entrées. Et qu'en plus, il est plutôt très bien reçu. C'est-à-dire que c'est pas un film qui déclenche des réactions très, très outrées. Ben, je pense, c'est pas parce qu'il banalise la violence, c'est pas ça. Je pense que c'est parce que, bien involontairement, il met tout extrêmement à distance. Ce noir et blanc renvoie à une époque de cinéma qui n'existe plus et qui n'est plus la nôtre. On place le film dans une époque qui est avant tous les partages en cacahuètes des années 60-70, qui permet de dire que c'est bientôt là, mais que c'est pas encore là, qui en gros est après le conflit, on va dire le conflit moral, mussolinien, et avant les autres conflits politiques à venir. La violence, elle existe, elle est frontale, elle est présente à l'image, mais elle est tant sous forme de danse que d'éléments qui la ridiculisent, etc. Ce qui fait qu'en fait... Pour moi, c'est pas que ça banalise, encore une fois, je pense que le discours du film est très clair, mais il passe par tellement d'artifices que je pense que même un type qui dérouille sa nana peut ne pas s'identifier aux hommes violents dans le film. Et c'est pour ça que c'est un film qui peut faire 5 millions d'entrées, parce que c'est un film qui arrive à rendre tellement consensuel quelque chose qui n'est pas consensuel dans son pays, que moi, il me met relativement mal à l'aise. Maintenant, une fois que cela est dit, je trouve qu'il y a une inventivité, une maîtrise dans le film qui sont absolument remarquables. Vraiment. Elle vient de la comédie, je crois que c'est toi qui l'avais dit, Nico. Elle vient de la comédie, la réalisatrice, et tu le sens. Elle a une maîtrise des changements, des ruptures de ton, et une maîtrise aussi, ce qui est souvent le cas de personnes qui ont travaillé dans la comédie, de la direction d'acteurs, qui est globalement impeccable. Après, voilà, moi j'ai un énorme problème avec la mise en scène. Je trouve qu'elle passe à côté de son sujet du fait de ses effets, mais en soi, tout est sacrément bien branlé.
Je suis vraiment pas du tout d'accord avec vous trois, enfin un peu plus avec Simon, mais je vous trouve d'une dureté incroyable pour ce film qui, moi, me semble être précisément un film dont on devrait se réjouir de l'existence. C'est-à-dire que je trouve que déjà, en tant que pur objet filmique, c'est-à-dire que la comédie me fait rire, je trouve que elle regorge d'idées. Moi, je trouve que son noir et blanc est très beau, donc je trouve que cette mise en scène très théâtrale dans cet appartement en sous-sol fonctionne toujours, on s'ennuie jamais, elle est justement jamais fixe. Elle est toujours en mouvement, elle est toujours au plus près de son héroïne. Moi, je trouve qu'il y a littéralement des répliques hilarantes. Hein, la petite vieille qui est en train de pourrir sur place, qui au moment où on veille le personnage du grand-père misogyne, méchant, qui est dans la pièce d'à côté.
Ah mais attends, celui qui dit toujours, il faut pas que tu tapes ta femme aussi souvent, elle va s'habituer.
C'est ça.
Une dérouillée, mais une forte.
C'est ça. Bref, je trouve que tout ça fonctionne remarquablement bien. Je trouve que la façon, le lien qu'elle a, et ça aussi c'est quelque chose de très fort, avec sa fille qui la méprise, qui la déteste, de voir que cette femme a littéralement tout perdu et qu'elle reste là pour quelle raison ?
C'est la Alors question, ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le film.
Ces deux enfants qui ne l'écoutent pas, les deux garçons qui sont vraiment complètement en roue libre. Enfin, je trouve que tout ça et l'écriture de ces personnages, de ce noyau familial et de ce personnage qui est littéralement central tout le temps. Elle est dans tous les plans. Il y a ce plan magnifique du début d'ailleurs qui est très beau, ce travelling latéral sur la musique, qui le premier plan où on la fait sortir de chez elle avec une musique très contemporaine et on voit et on découvre ce qu'est cette Italie d'après-guerre. Moi vraiment, je trouve ça vraiment brillant. Par rapport à ce que tu dis. Sur le fait que ces procédés de mise en scène et notamment cette scène de danse, hein, puisqu'on parle de ça, mettent la question de la violence conjugale à distance, eh ben, je ne suis pas d'accord parce que je trouve que précisément ça permet d'adresser et de montrer dans une tradition absolument italienne justement de comédie populaire, sociale et où bien, on peut rire, où le rôle de l'amplitude chez Fellini, du clown, de l'outrance est vraiment absolument central, eh bien, on retrouve là effectivement une forme d'écriture qui n'est pas qu'une forme de citation, ce que je déplorais souvent du cinéma italien en disant « mais débarrassez-vous, bordel de merde, du néoréalisme ». Mais là, au moins, elle y va franchement. C'est-à-dire qu'elle y va franchement et elle reprend ses codes, mais bien sûr, mais elle reprend des codes qui sont des codes universels. Et donc, à travers ces codes universels, et en montrant et en trouvant des biais et des purs biais de comédie pour montrer une réalité qui est une réalité insupportable, et ben néanmoins, tout le monde peut, et elle peut avoir accès à tout le monde, et elle peut avoir accès à 5 millions de personnes, là où si on rentrait dans ce qui reste une comédie et une comédie d'émancipation, sur un sujet, sur le terreau d'un drame social, et ben elle garde si dans ce même film, et bien les scènes de dérouillage avaient été hors champ, on aurait trouvé ça insupportable. Si elles avaient été ultra-violentes, on aurait dit que ça venait complètement casser, et le film et l'ambition cinématographique et l'ambition narrative du film, et bien là, au contraire, ça fait une unité, ça fait une unité de ton, de sens. Il y a vraiment des scènes hilarantes et qui parlent et qui n'arrêtent pas de parler et de dialoguer avec l'Italie contemporaine. J'ai la chance d'avoir des amis italiens et dont une qui était là le week-end dernier au moment où on a été voir le film ensemble. Et en fait, ce que tu disais est assez juste, mais joue pour le film, c'est-à-dire que ces procédés de mise à distance, le beau-père, l'outrance de cette société qui est pourtant si vieille, c'est encore l'outrance de la société d'aujourd'hui. Et donc, la mise à distance, elle permet d'adresser frontalement et directement tous ces problèmes qui traversent encore la société italienne. Et ben du coup, moi, je sors de là en me disant, chapeau bas. C'est une première réalisation. Vraiment, il y avait 1000 moyens de se planter et d'aller dans le décor, ben je trouve que c'est tenu, c'est drôle, c'est inventif. Encore une fois, hein, faut y aller, faut oser dire qu'on va te mettre plein cadre une scène de violence conjugale avec un mari qui tape et qui cogne sur sa femme. Et ben néanmoins, cette scène-là, elle est à la fois glaçante et en même temps, et ben justement, elle vous met dans une situation qui est une situation de malaise, d'inconfort, parce que ça reste une situation de violence conjugale, mais néanmoins, sans dénoter du reste du film. Moi, je trouve que c'est truffé d'idées. Je trouve que ça, contrairement à ce que tu disais, Sophie, moi je trouve que cette conclusion, elle est totalement. J'adore ce qu'elle fait du scénario, c'est-à-dire de laisser dérouler son histoire vers une direction particulière et d'en prendre non pas le contre-pied, mais de faire un léger pas de côté pour la conclure et montrer que finalement, aujourd'hui, dans un pays. Passer de 30 secondes, parce que je ne vais pas spoiler, mais enfin, dans un pays où le rapport à la politique est très compliqué parce que la nation italienne est très récente et qu'il y a des élections locales, mais les élections nationales, personne n'en a rien à foutre, les taux d'abstention sont hyper hauts, et ben d'un seul coup, on envoie un message qui est un message très clair et très net sur comment on fait et comment on fait collectivement pour se prémunir de cette vieille Italie rance qui a repris le pouvoir. Et ben le message, il est limpide là-dessus. Donc moi, vraiment, j'applaudis demain et je trouve que c'est un film très bon, très fort et que j'ai adoré voir. Voilà.
Tu vas pas beaucoup à l'encontre de mon discours sur le fait qu'il faut connaître un peu la société italienne et comprendre un peu tout ça pour saisir toutes les
formes. Mais c'est vrai de toute œuvre.
Oui, mais c'est vrai de toute œuvre.
On connaît un peu mieux la société américaine, donc il y a plein de codes qui nous semblent évidents. Et puis la société française, on est dedans.
Ce qui est dit là, franchement, je veux dire, tu pourrais changer. Évidemment, il y a des traits culturels particuliers. Mais enfin, je veux dire, la vie de cette femme en 1947, elle ressemble de pas très loin à la vie de mes grands-parents auvergnats au sortir de la guerre.
Par contre, c'est drôle parce qu'en termes de notation, c'est Simon qui a le moins aimé et tu es plutôt d'accord avec lui sur les arguments, c'est un peu rigolo.
Oui, mais parce que j'arrive à convaincre mes pères.
Une dernière remarque, est-ce que...
Oui, je voudrais juste revenir sur la scène de danse. À la limite, pourquoi pas le faire en scène de danse? Mais il y a un truc qui me gêne, c'est qu'ils ont l'air d'être en symbiose. Et il y a un truc dans le rythme de la comédie musicale que je trouve... c'est pas musical en mode chanter, petit oiseau, tout ça, mais il y a une espèce de tango qui se fait. Et il y a un effet qui est l'effacement du coup de manière numérique que je trouve hyper touchy. Moi, il m'a mise mal à l'aise, non pas parce que j'étais face à une scène de violence, mais parce que d'un coup, on voyait deux acteurs qui étaient un peu sublimés par cette espèce de danse. Et,
lui, il n'est jamais sublimé par la caméra. Hein. Lui,
ah bah, dans cette scène de danse, il y a un moment où, justement, il y a toute une réflexion, il y a beaucoup, il y a quelque chose sur son parcours à lui et sur son questionnement. Qui passe hein, vraiment, pour pas dire, c'est pas de la rédemption, hein, il passe genre d'horrible, affreux connard à peut-être je peux être juste un connard, hein, on est sur quelque chose comme ça.
Ouais,
et je trouve que c'est un petit peu odieux de. Enfin, je trouve pas du tout que le film soit odieux, hein, au contraire, je trouve qu'il est.
Il veut bien faire.
Je ne mets jamais en cause le discours du film et le bien qu'il peut faire, pas du tout. Moi, c'est vrai que ce filmage-là. Deux scènes de baston me met très mal à l'aise, très mal à l'aise.
Mais vous pouvez aller voir Il reste encore demain 2 et avec Paola Cortellesi, allez-vous être très enthousiaste comme je suis ou allez-vous pendiculer?
Ding ding ding
ding ding ding ding.
C'est-à-dire c'est l'action d'étendre les bras et les jambes de tout son long et de bâiller en même temps.
Oh, je pendicule beaucoup moi.
Oui, c'est puis en plus c'est une rime riche. Et vous pouvez nous dire du coup si vous êtes plutôt une baigne en musique ou un bulletin dans l'urne. Et pour finir, comme chaque semaine, Anatomy of a Critic. Quickly done, badly done, The Critic in 30 secondes. Et on commence par Scandaleusement Vôtre de Théo Charoque. Et c'est avec toi, Sophie.
Oui, je suis allée voir Scandaleusement Vôtre le jour de mon anniversaire et j'avoue que c'était un petit moment un peu bonbon. Je dois bien avouer que le film n'est pas du tout parfait. De quoi ça parle en deux mots? C'est dans les années 20, dans une petite ville en Angleterre, à Littlehampton. Et c'est l'histoire de deux voisines, une qui est interprétée par Olivia Colman et une par Jessie Buckley. Olivia Colman est une dame, une vieille fille, pour être exact, qui vit chez ses parents, qui est très pieuse, très religieuse, qui fait attention à être vraiment caractérisée comme parfaite. Et Jessie Buckley, elle est irlandaise, elle jure, elle boit, elle est mère célibataire, mais elle a pris pour beau-père un homme noir pour sa fille. Enfin, vraiment, elle est jugée par l'intégralité de cette petite société jugeante anglaise. Et il se trouve que Olivia Colman commence à recevoir des lettres d'insultes. Et non pas des lettres d'insultes en mode « Oh là là, tu devrais mieux ranger ton garage », mais vraiment en mode j'espère que tu te fais bien bouffer le cul, sale pute. Fais-toi défoncer le trou de balle, sale chienne. Je suis désolée pour le. C'est vraiment ça jure toutes les 4 secondes dans ce film. C'est hyper, 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 hyper vulgaire. Et donc, évidemment, elle va dire mais non, mais j'en veux à personne. C'est bien triste ce qui m'arrive, mais je suis une telle sainte que. Mais évidemment, elle va laisser planer le doute sur le fait que c'est sa voisine, Jessie Buckley, qui lui a envoyé les lettres. Il faut savoir que le film s'ouvre sur un carton de texte qui dit « Cette histoire est vraie, mais vous n'imaginez pas à quel point. » C'est une vraie histoire et c'est une histoire qui va créer une espèce d'émulation particulière parce que c'est une des premières femmes policières qui va s'occuper de l'affaire et elle est persuadée de l'innocence du personnage de Jessie Buckley et va mener une enquête. Et donc le souci du film, c'est qu'il est immensément sympathique, il est juste très mal rythmé parce qu'on a la résolution de l'affaire à peu près dans le premier tiers, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment on va piéger le ou la coupable. Sachant que l'affaire a été très médiatisée parce que les lettres d'insultes n'ont plus été que pour Olivia Colman, mais pour plus de 70 personnes, dont des notables, et que des lettres hyper injurieuse, et il y a quelque chose sur le fait que à l'époque l'écriture et l'analyse de l'écriture n'était pas valable dans un procès. Donc on pouvait pas dire mais si on a comparé les écritures, donc on peut innocenter ou accabler quelqu'un. Et donc c'est cette histoire vraie qui en soit un téléfilm anglais de bonne qualité, qui est un peu dans la lignée des films comme Le Calendrier ou des choses comme ça, c'est du féminin british pop et cool, ni plus ni moins. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympathique, c'est bien joué et l'histoire est plutôt rigolote. Voilà, c'est ok plus.
The Sweetest de Sean Price Williams, Arthur.
C'est un film que j'avais vraiment hâte de voir à Cannes la dernière. Je vous en parlais, souvenez-vous, parce que c'était donc le premier film en tant que réalisateur de Sean Price Williams que vous connaissez peut-être pour être le directeur de la photo des frères Safdie, Uncut Gems, Good Times et autres. Et moi, c'est un film qui m'avait vraiment déçu. Alors, je vous cache pas que je l'ai pas revu depuis. Ça se trouve, sans doute que il y a un truc qui se passe à Cannes où on est parfois un peu aigri. Et puis bon, on parle de film 10 mois plus tard. Donc voilà.
Fatigué.
Mais, fatigué, on va dire ça comme ça. Mais je me souviens d'un film qui se voulait écrit avec un gros tampon, un très gros. Bonjour, je suis un film indé américain très stylé. Regarde mon grain et regarde mon image. Tu aimes bien Shane Baker? Et bah, tu vas adorer ce que je vois. Sauf qu'en fait, non. C'est un film que je trouve, écrit de manière un petit peu trop facile avec évidemment un personnage qui va nous rappeler une Alice au Pays des Merveilles, qui va aller de personnage en personnage, qui va rencontrer des gens et il va lui arriver une multitude d'histoires, sauf que en fait le cinéaste est très cynique dans sa démarche, donc c'est pas inintéressant et en même temps ça raconte pas grand chose. Enfin si, ça raconte plein de choses et je suis pas sûr d'aimer tout ce que ça raconte. Bref, faudrait que je le revoie. C'est le genre de film qu'en fait il faut revoir.
C'est vraiment une chronique de qualité.
Écoute, non, mais ça me permet de mettre les mots dessus. C'est-à-dire que c'est un film, on le voit une première fois. Moi j'ai été très déçu parce que vraiment je m'attendais à du Safdie-like et c'est pas le cas. Je m'attendais vraiment à quelque chose de cette ampleur-là, de cette envergure-là et c'est pas ça. C'est une petite chose. C'est un petit film indépendant, fragile. Ce qui est cocasse en revanche, c'est de voir que ce même cinéaste a fait une interview dans Libération il y a deux jours qui est sur principe intéressante, qui défonce A24, donc A24, qui a produit au passage Uncut Gems et Good Times des frères Safdie, en disant que c'est ce que les Français considèrent comme du cinéma indépendant, mais ça n'en est pas du tout. A24 est loin d'être indépendant, c'est un studio, c'est une usine. Et là, l'actrice répond que c'est même les pires de tous, leurs films n'en sont pas, ce sont des formules mathématiques. J'entends tout à fait que l'on puisse dire ça et qu'on puisse comparer du coup Netflix, parce que c'est Netflix hein, qui bosse en termes d'algorithme, à A24. Le fait est qu'au moins les films A24, bah, ils ont des scénarios.
Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant.
Allez, on arrive presque à la fin, mais comme chaque mercredi, il en reste un peu plus, on vous laisse, on va vous parler. Moi je vais vous parler d'un livre.
Livre... t'as pas le droit, il y a que Simon qui peut parler de livre.
Non, moi aussi.
Non, mais dis-moi le titre et j'invente un truc.
Le titre de ce livre. Le titre de ce livre, c'est Ceci est mon temps, ménopause, andropause et autres dérèglements climatiques. C'est un bouquin assez passionnant d'une autrice que j'avais un peu suivie, qui s'appelle Élise Thiébaud, qui est une autrice féministe, qui avait déjà écrit un livre avec un titre tout aussi intéressant et accrocheur, Petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Et qui continue à travailler notamment sur, bien évidemment, l'emprise historique du patriarcat sur le corps des femmes. Et elle travaille donc là sur la ménopause, mais vous l'aurez entendu, aussi sur l'andropause. Et ce que je trouve passionnant, c'est qu'elle montre comment, finalement, la façon dont on a maltraité, relégué, masculinisé aussi le corps des femmes qui avaient perdu leur fécondité, en disant bah, « maintenant, vous pouvez faire des travaux similaires à ceux des hommes », comment on les a vraiment rejetés, enlaidis, bref. Toute cette construction sociale, elle la met en parallèle de ce que ces mêmes personnes, spoiler alerte, les hommes blancs et le patriarcat, font finalement au reste du monde et au reste de l'environnement. Je vais vous lire un petit passage que je trouve assez génial et qui donne le ton, surtout Élise Thiébaud, à un ton très personnel, très mordant, assez drôle, toujours grinçant. C'est vraiment, ça se lit presque comme un roman et comme un récit et pas du tout comme une sorte d'essai politique théorique. Je vous lis un petit extrait. Alors que la terre brûle, que les forêts, les espèces et les espaces naturels disparaissent, on peut se demander si nous n'avons pas imposé à notre planète une gigantesque ménopause en miroir de celle que nous vivons individuellement. Sa fertilité, on le sait, est compromise, les sols se meurent, les eaux s'évaporent, les airs se font irrespirables. Et chaque été, nous sommes réveillés par des bouffées de chaleur, ces tempêtes et ces incendies, ces sécheresses et ces inondations. La planète est en pleine ménopause parce que nous n'acceptons pas la nôtre et plus généralement les cycles qui la gouvernent. Naissance, croissance, maturité, mort sans laquelle aucune régénération n'est possible. En quittant le temps cyclique, nous nous condamnons à vivre dans un temps linéaire dont nous perdons le sens et surtout l'essence. Bref, je vous enjoins vraiment de lire ce livre, quand bien même vous n'êtes pas directement ou immédiatement concerné par la ménopause, parce que c'est bien plus que ça. C'est vraiment un essai sur notre époque qui va dans la continuité du travail d'Élise Thiébaut, qui avait également écrit la biographie de la première écoféministe Françoise Daubonne, et qui était aussi une biographie très personnelle et tout à fait réjouissante. Ça parle du corps de la femme, ça parle du corps des hommes, ça parle de domination, de soumission, de comment casser ces vieux schémas de ce vieux monde. Et messieurs, ça parle même de votre zézette. Et d'andropause. Donc vraiment, ça se lit en deux jours, et c'est tout à fait réjouissant, et c'est aux éditions du Diable Vauvert. Arthur, tu voulais nous parler de musique. Quelle surprise.
Non, rapidement, très rapidement. Est-ce que vous vous souvenez, dans Anatomie d'une chute, il y a un morceau qui revient plusieurs fois.
Non, pas celui-là.
C'est plus ça.
Mais moi, ce qui est terrible, c'est quand ils sont montés sur cette musique sur scène aux Oscars, sauf que c'est quand même la scène où il se hurle dessus et où le mari meurt. Donc j'étais genre en mode c'est pas cool du tout, en fait.
Ah non, pas du tout, mais c'est devenu le symbole, et c'est devenu le symbole pas pour rien, puisque c'est une reprise de PIMP, tube interplanétaire de 50 Cent, sorti il y a maintenant 20 ans. Il faut savoir que c'est une reprise qui a été faite par un groupe qui s'appelle Bacchorism and Steel Band, qui est un groupe créé par le multi-instrumentiste Björn Wagner, dont la spécialité est de reprendre des titres, que ce soit autant du jazz que du rap que de la pop, avec cet instrument qui va mélanger donc des orchestrations un petit peu groove avec des vibrations des percus caribéennes et notamment cette espèce de steel drum qui est donc une espèce de cuve en métal un petit peu retouchée que l'on tape avec des bâtons. Bref, vous connaissez donc ce morceau, vous connaissez donc cette musique, et bien sachez qu'il vient de sortir un nouvel album. Voilà, j'ai pas encore tout écouté, mais il y a quelques belles reprises. Et voilà, vu qu'on était un peu encore sur la vague Justine Triet, Anatomie d'une chute, PIMP, Messi, Snoop, le chien, bah voilà, si vous avez aimé ce morceau et que vous l'avez en tête comme moi depuis dimanche et depuis les Oscars, sachez que le nouvel album en contient de bien belles.
C'est toi qui es bien belle. Sophie, tu voulais nous parler de la saison 2 d'Extraordinary.
Mais oui, des séries, comme c'est surprenant. oui, il y a la saison 2 de Extraordinary qui est sortie sur Disney+, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une série incroyable que j'aime de tout mon cœur. Pour vous la repitcher très rapidement, c'est dans une société anglaise où tout le monde à 18 ans obtient des super pouvoirs qui peuvent être soit hyper cool et hyper mainstream, genre super force, voler, se téléporter, mais super nul, comme par exemple un mec qui peut juste regarder une femme et savoir si elle a ses règles ou non, pas terrible, ou un mec important dans la série qui peut avancer ou reculer ou avancer dans le temps. Mais max d'une heure. Genre vraiment pas plus.
En vrai, avec ça, tu gagnes au loto. Hein.
Non, mais un peu cool, mais pas tout le temps. Et donc, c'est l'histoire de Jen qui a 25 ans et qui n'a toujours pas de pouvoir et qui vit du coup en coloc avec une nana qui a le meilleur pouvoir du monde. Elle peut se faire posséder, entre guillemets, faire parler les morts. Elle choisit qui elle veut.
Qui utilise sa bouche pour s'exprimer.
C'est ça. Et ça donne des scènes
Jacques Villeray, par exemple.
Mais par exemple, n'importe qui.
On a les droits.
Mais elle s'en sert particulièrement.
C'est une imitation, ça. Chaque dilemme à posséder.
Ah bah écoute, on t'attend dans la saison 3. Non, la saison 2 est encore plus touchante et ça boucle pas mal la storyline de la saison 1, qui est notamment que cette meilleure amie, elle est un peu cette espèce de téléphone surnaturel pour faire parler le père de Jen qui est décédé et qui donne des scènes super super touchantes. C'est très drôle, les épisodes sont assez courts, une vingtaine de minutes, entre 25 minutes, et ça se binge tellement facilement. Il n'y a que 8 épisodes dans la saison 1, 8 épisodes dans la saison 2. C'est un putain de bonheur, et c'est super féminin. Ça a été créé par une nana qui s'appelle Emma Moran, qui la réalise et qui l'écrit. Et je vous encourage, c'est vraiment ce que vous pouvez voir de mieux sur Disney+.
Eh bien voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, on reprend rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ?
Moi, je serai pas là.
Quelle chance. Dès demain, pour nos Josianes, il y aura l'épisode de mardi pour nos abonnés qu'on aime bien aussi, mais qui ne sont pas des Josianes, mais qu'on aime quand même. Mais mercredi, pour nos Josianes, il y a l'épisode exclusif pour les abonnements à Cast Plus.
Mais oui, on va sur l'épisode avec spoil de Desperate Housewives, avec toujours mes super invités, Alexis et Anna Godefroy, et on va parler des morts, des mariages, des divorces, des assassinats, des tornades. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent sur 8 saisons de Desperate Housewives. Et on a essayé de classer ces moments dans de grandes catégories, comme notamment celle qui fait le plus pleurer les invités.
Voilà, pour les autres, eh bien, on vous aime aussi. On se retrouve mardi pour parler d'amitié russo-nippone. Bye les amis et Anatomy of Gloria. Tu vois, vous l'avez le...
Ouais. Non, ouais.
Bon.
C'était bien.
Bye bye quand même. Hein.
Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé.
Au quatrième stop, il sera exactement 0h13.
Oh la vache, moi je vais être en retard au lycée.
Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi, je dois.
Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en.
Arrivederci, et buon viaggio.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.